Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 4h57, c'est parti pour le 5-7. Bienvenue, ravi de vous retrouver comme chaque matin. On se réveille ensemble tranquillement jusqu'à 7h. Nous sommes le jeudi 1er octobre. Ça y est, on a basculé dans le mois d'octobre. C'est un peu déprimant, mais c'est ainsi. Youpi. Toute l'équipe est là autour de moi. Omblin Roche, Paul Lassenne. Salut
bonjour.
À tous les deux.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Mais réhabilitons le mois d'octobre.
Mais oui,
ah, oui.
C'est
oui,
très
oui.
beau mois, le mois d'octobre.
Vous l'avez entendu, vous, le fameux.
Mieux que ça, je l'ai senti.
Ah oui.
Bah, je suis du bon côté.
Côté est de la région parisienne.
Ouais.
Ce bang supersonique un peu avant midi hier qui a paniqué un peu l'Île-de-France, hein, le temps d'un instant, qui a même interrompu les matchs à Roland-Garros. C'était donc un avion, Paul, ça a agité les réseaux sociaux toute la journée d'hier.
Oui, on a commencé par l'inquiétude, puis le soulagement et on a terminé par le questionnement. Comment un avion peut voler aussi bas, aussi près des gens? Eh bien oui, ça a agité les réseaux sociaux, je vais vous raconter ça dans un peu moins d'une heure.
Voilà, c'était donc un rafale qui a atteint la vitesse, le mur du son pour aller sécuriser notre ciel, pour aller contrôler un avion qui avait perdu le contrôle radio. Voilà pour l'explication plus rassurante, plus de peur que de mal. Omblin, qu'est-ce qu'on écoute ce matin?
Pas de rafale, hein. En 1956, il a 21 ans cette année-là, il vient d'entrer dans la légende du rock'n'roll. Hollywood comprend tout de suite que ce chanteur aux cheveux noirs et au sourire dévastateur va être une poule aux œufs d'or quand Elvis joue l'acteur.
Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart.
Elvis, le king dans la partition. Beau programme, ce sera tout à l'heure à 6h10, à tout à l'heure, Omblin. Ils sont 11 millions de Français qu'on appelle les aidants. C'est un foyer sur 6 qui est concerné par ce type de situation. Prendre de son temps pour s'occuper d'un proche malade, âgé ou handicapé, c'est une avancée majeure pour eux. Un congé de 3 mois, désormais indemnisé, sera possible à partir d'aujourd'hui pour ces familles qui jonglent souvent avec leur travail. Ce matin, un témoignage très fort à ne pas manquer à 6h40, celui de Jean-Marc Généreux. Vous le connaissez comme juré, enjoué de Danse avec les Stars. Le reste du temps, il s'occupe de sa fille très lourdement handicapée. Il témoigne donc à 6h40. Autre sujet, cette proposition de loi examinée aujourd'hui sur le bien-être animal avec l'idée de sortir de l'élevage intensif, la fin des poules pondeuses en cage ou des poulies en batterie. Est-ce vraiment possible, faisable économiquement? Je poserai la question à 5h40 au président de l'interprofession Volaille, Jean-Michel Schaeffer. Le bien-être animal, on en parlera aussi avec mon invité inattendu tout à l'heure à 6h15. C'est un chanteur qui, entre deux albums, élevait des chèvres à la ferme en Ardèche. Bienvenue à vous tous, voilà pour ce programme ce matin. Et je salue Laurent Cabrol. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous et bonjour Sébastien. Nous allons vivre une journée marquée par les nuages, par le vent et par des températures assez fraîches, avec même au passage deux zones de pluie. La première va concerner, disons, la partie est de la France et la seconde va arriver par la Bretagne cet après-midi. En général, partout, une fois qu'il sera passé, partout les nuages vont se reconstituer et même devenir parfois éclaircis. Température maximale entre 14 et 17 au nord et entre 18 et 22 au sud.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, c'est parti, voici votre premier journal de cette matinale. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h sur Europe.
Vraiment, une fermeture supplémentaire, ce serait le coup de grâce de la profession. Mais il faut qu'ils nous entendent aussi, bon sang. Je le dis, je le répète, on n'est pas plus dangereux que d'autres secteurs.
Il met la pression sur le gouvernement. Philippe Etchebest, en porte-parole des restaurateurs, alors que le ministre de la Santé doit faire un nouveau point de situation sur l'épidémie ce soir. L'enquête sur la mort de Victorine en Isère, les premiers éléments de l'autopsie montrent une noyade et l'intervention d'une tierce personne. Et puis un attelage hétéroclite pour une proposition de loi déposée aujourd'hui. Les députés, un milliardaire, Xavier Niel, et un animateur télé, Hugo Clément, veulent aller plus loin, vous en parliez Sébastien, pour le bien-être animal.
À suivre votre journal des sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs et nos artisans. Ce matin, on accueille un nouveau dans la bande des doigts dans l'assiette direction Bayonne chez un fromager particulièrement créatif. Bienvenue à vous tous, il est 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les espoirs douchés des habitants d'Aix et de Marseille. Ils espéraient la réouverture de leurs bars et de leurs restaurants. Le recours a été rejeté hier par le tribunal administratif. Aujourd'hui, c'est du côté de Paris qu'on s'inquiète, entre autres. Le ministre de la Santé doit s'exprimer ce soir alors que les chiffres de l'épidémie sont mauvais, Victor Delande.
Oui, dans la capitale, les trois indicateurs qui font basculer une ville dans la zone d'alerte maximale sont dans le rouge. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, dans la population générale et chez les plus de 65 ans. Et enfin, le taux d'occupation des lits de réanimation. Est-ce que les bars et les restaurants vont pour autant fermer ? Pas forcément, me précise un conseiller d'Olivier Véran. L'idée, ce serait de laisser la main à la mairie de Paris dans un premier temps, voir si les mesures déjà prises, le couvre-feu à 22h pour les bars notamment, ont une incidence sur l'évolution de l'épidémie. Et si ça ne marche pas, le gouvernement reprendra la main. Lyon, Lille, Toulouse et Grenoble inquiètent également le gouvernement. Dans ces quatre villes, le taux d'incidence est au-dessus du seuil d'alerte maximal, mais pas le taux d'occupation des lits en réanimation. Un signe d'ailleurs ne trompe pas. Jean Castex reçoit ce matin les maires de ces villes. Le Premier ministre devrait leur demander de prendre des mesures plus contraignantes.
Victor Delande pour Europe 1. En France, on a compté 64 morts du Covid hier. Un total de 34 patients de plus en réanimation. Le taux de positivité des tests reste, lui, à 7,6%.
On saura donc ce soir si de nouvelles restrictions sont décidées. Une perspective qui effraie déjà les restaurateurs, comme le chef 2 étoiles, Philippe Etchebest.
On est pendu aux lèvres du gouvernement, des ministres, pour savoir ce qu'on va faire. Vraiment, une fermeture supplémentaire, ce serait le coup de grâce de la profession. Mais il faut qu'ils nous entendent aussi. Bon sang, je le dis, je le répète, on n'est pas plus dangereux que d'autres secteurs. On a des mesures restrictives d'hygiène que nous avons mis en place. Je vois des photos de métro, j'en ai vu hier encore, on m'a envoyé des photos des gens dans le métro. C'est juste incroyable, incroyable comment les gens sont entassés les uns sur les autres. Il y a plus de possibilités d'attraper la Covid à ce moment-là que dans nos établissements. Je ne cesserai de me battre malgré tout parce qu'on doit rester debout. Donc on s'est dit que vendredi à 11h45, on sera devant nos établissements, munis de brassards noirs. Pendant le confinement, les gens ont applaudi le personnel médical à 20h. Ben nous, on veut faire la même chose tous les vendredis. On va faire du bruit pendant une minute devant nos établissements pour dire on est là, quoi.
Philippe Etchebest au micro de Pierre Herbulot pour Europe 1. Un incendie spectaculaire au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Cette nuit, un entrepôt de 7000 m² ravagé par les flammes s'est effondré dans une zone industrielle près de l'autoroute A3. 150 pompiers et une vingtaine de camions ont été mobilisés pendant plusieurs heures. De nombreuses palettes en bois se trouvaient à l'intérieur.
C'est désormais une certitude. La jeune Victorine, dont le corps a été retrouvé dans un ruisseau en Isère lundi, n'est pas morte par accident. L'autopsie a conclu hier à une noyade avec intervention d'un tiers.
Des conclusions qui renforcent la piste de la mauvaise rencontre. Jean-Luc Boujon.
Selon l'autopsie, l'intervention d'un tiers ne fait aucun doute dans le décès de Victorine. Sur le corps de la jeune femme, en effet, on a retrouvé de multiples ecchymoses. En revanche, il n'y aurait a priori pas eu d'agression sexuelle. En tout cas, les examens d'hier n'ont pas permis de mettre en évidence quoi que ce soit. Des résultats qui ont toutefois ébranlé les parents de la jeune femme, explique leur avocate, maître Kelly Montero.
Il y a un certain soulagement de se dire qu'effectivement, ce n'est pas arrivé par hasard, qu'on va finalement savoir ce qui s'est passé. Maintenant, il y a encore beaucoup d'interrogations. On a une famille triste, en colère, détruite, mais qui se soutient et puis surtout qui tient à remercier tout le travail qui est accompli pour essayer de faire ressortir cette vérité.
Les enquêteurs continuent donc d'examiner minutieusement les échanges téléphoniques ou sur les réseaux sociaux de la jeune femme afin de savoir si elle pouvait connaître son ou ses agresseurs. La famille, elle, est persuadée que Victorine a fait une mauvaise rencontre sur ce chemin abrité des regards, explique cet ami des parents.
C'est une mauvaise rencontre. Hein. C'est pas une fille qui avait de la mauvaise fréquentation. Non, non, c'est une fille qui sortait jamais, en plus. Elle l'a encore dit à la maman. C'était vraiment une fille réservée, pas frivole, vous voyez.
L'enquête se poursuit donc en attendant la marche blanche en hommage à Victorine qui sera organisée dimanche. Villefontaine, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Il est 5h05 sur Europe 1, deux jours après les annonces de Barbara Pompili sur les animaux sauvages, bientôt interdits dans les cirques. Une trentaine de députés déposent une proposition de loi pour aller plus loin sur le bien-être animal.
Proposition qui reprend en partie les demandes du référendum d'initiative populaire que souhaitent le journaliste Hugo Clément et plusieurs grands patrons, dont Xavier Niel, fondateur de Free. Des élus anciens de La République En Marche sont à la manœuvre, Virginie Salmen.
Oui, ces députés comme Cédric Villani, Delphine Bateau ou Mathieu Orphelin demandent au gouvernement de passer à l'action. D'abord sur les chasses traditionnelles. Pour eux, il faut purement et simplement les interdire parce qu'elles sont d'une cruauté qui ne correspond plus à notre époque. Par exemple, la chasse à cour qui consiste à poursuivre un animal jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement ou bien faire sortir des renards de leur terrier à l'aide de pinces et de chiens. Et puis, ces élus réclament d'arrêter d'élever des animaux en cage, qu'ils puissent voir le ciel, respirer l'air du dehors, en commençant par les poules pondeuses qui sortiraient des cages d'ici 5 ans maximum. Aujourd'hui, 2 poules sur 3 sont élevés dans un enclos grillagé. Puis, d'ici 10 ans, les lapins, les canards, les porcs ou les cailles, tous les autres animaux élevés en cage ou en boxe. Les députés se disent bien conscients des difficultés économiques de certains éleveurs et ils prévoient des délais allant jusqu'à 20 ans pour prévoir les travaux nécessaires. Et ils insistent sur l'article 1er de la proposition de loi, un fonds de soutien pour les aider financièrement.
Virginie Salmen.
Aux États-Unis, un accord à 800 millions de dollars validé cette nuit par un tribunal. Il s'agit de l'indemnisation des proches des victimes et des survivants de la fusillade de Las Vegas le 1er octobre 2017, il y a tout juste 3 ans.
Souvenez-vous, un tireur posté à la fenêtre du casino Mandalay Bay avait fait 58 morts et 800 blessés parmi les spectateurs d'un festival de musique country. Avec cette indemnisation, le groupe d'hôtels et de casinos MGM Resorts met fin à la plupart des actions en justice intentées par les parties civiles. La culture et David Fuenquinos qui publie aujourd'hui son nouveau roman « La famille Martin », c'est chez Gallimard, un livre qui s'interroge sur la banalité du quotidien et dont la genèse est une drôle d'histoire.
Mais l'auteur, en manque d'inspiration, aurait choisi ses personnages au hasard d'une rencontre. Nicolas Caro nous explique sa démarche. On a perdu Nicolas Caro. On l'écoutera tout à l'heure, un peu plus tard. C'est pas très grave.
Ça arrive.
Avec le nouveau roman de David Fuenquinos, on a retrouvé Nicolas Caro.
La vie est romanesque et David Fuenquinos le prouve. Un jour, le voilà confronté à l'angoisse de la page blanche. Pas d'idée, pas d'inspiration. Alors, il décide de descendre dans la rue, d'aborder la première personne qu'il voit et de raconter sa vie dans son prochain livre.
Je suis tombé sur Madeleine Tricot, une femme de 82 ans. J'ai expliqué que j'avais envie de m'intéresser aux gens du quartier, de leur parler, si elle avait le temps de prendre un café. Elle a vu que j'étais pas un mythomane, elle savait que j'étais écrivain, elle me connaissait, elle m'avait déjà croisé dans le quartier et donc j'ai pu prendre un café avec elle.
À partir de là, tout s'enchaîne, il rencontre la fille de Madeleine, Valérie Martin, son mari et ses enfants, et voilà la famille Martin transformée en personnage de roman. Évidemment, on se demande pendant tout le roman, mais est-ce que c'est vrai ?
Ce qui est très excitant, c'est que tous les premiers retours de lecture que j'ai tournent autour de la question de la réalité ou de la fiction. Tout le monde me demande si j'ai vraiment fait ça, si ces personnages existent vraiment, et donc c'est aussi un amusement pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est que en très très grande partie, tout est vrai.
Mais David Fuenquinos, c'est un romancier, on devine qu'ici et là, il a transformer le réel pour en faire du roman. Il pourrait faire sienne la phrase de Boris Vian « Tout est vrai parce que je l'ai inventé ».
Nicolas Caro pour Europe 1.
La famille Martin, nouveau roman de David Fuenquinos. C'était le journal de François Geffrier. Tout à l'heure François, il est 5h09.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec à la une beaucoup de bruit pour rien.
De la France à l'Espagne jusqu'au Brésil, l'affaire a fait parler finalement. Rien, pas de sanctions contre les footballeurs Neymar et Alvaro González, le Parisien et le Marseillais, soupçonnés d'injures racistes et homophobes lors du houleux PSG-OM le 13 septembre dernier. La commission de discipline de la Ligue a enquêté 2 semaines, mais a estimé qu'elle manquait d'éléments tangibles pour trancher. Même l'appel à des experts en lecture sur les lèvres n'a pas suffi, explique Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline.
Malheureusement, nous avons constaté que les conclusions de cet expert étaient trop aléatoires. Cette absence de réelle fiabilité d'expertise constitue en réalité un doute, et ce doute devait profiter aux deux joueurs susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires.
Indignation et colère, un non-jugement de la Ligue aveugle, sourde et muette, réagit le collectif Rouge Direct qui lutte contre l'homophobie dans le foot. Les deux joueurs risquaient jusqu'à 10 matchs de suspension.
Ouais, pas vu, pas pris. Les innocents, c'est la une d'une journal d'équipe ce matin. Le PSG, comme l'OM, concerné ce soir par le tirage au sort de la Ligue des Champions.
La Grande Coupe d'Europe, on va connaître la composition des groupes du premier tour. Les Parisiens, finalistes de la dernière édition, pourraient retrouver Barcelone ou encore l'Inter Milan. Les Marseillais, absents de la compétition depuis 7 ans, peuvent de tomber sur Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid. Même situation pour les Rennais qui découvrent la compétition.
Le tennis et Caroline Garcia au rendez-vous.
Qualifiée pour le 3e tour, victoire en 2 manches contre la Biélorusse Sasnovic, 96e mondiale. La Lyonnaise qui a souffert d'un genou pendant la partie, une douleur du printemps dernier.
On va dire que le confinement a causé quelques problèmes, mais j'ai un peu serré les dents, j'ai croisé les doigts aussi. À un moment donné, j'ai eu une remontée d'émotion parce que c'est tellement dur, c'est pendant Roland-Garros et t'as envie d'aller au bout du bout, même si tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de public, il y en a quelques-uns et ils m'ont beaucoup aidé, donc merci beaucoup.
Et aujourd'hui, les 3 autres Françaises tenteront elles aussi de passer au 3e tour, Fiona Ferro, Alizé Cornet et la jeune Clara Burel.
Et alors, côté messieurs, on en est où après la Berezina d'avant-hier ?
Plus qu'un en lice et il s'appelle... Hugo Gaston, Toulousain, 20 ans, 239e mondial, c'est la surprise. Son prochain adversaire demain, Stan Wawrinka, le Suisse, vainqueur 2015. Sinon hier, élimination de Benoît Paire, Benjamin Bonzi et Pierre Hugerbert à l'issue d'un match formidable face au 7e mondial. L'Allemand Zverev, battu en 5-7, le Français est passé tout près d'une très belle victoire. Du côté des prétendants au titre, tranquille succès de Raphaël Nadal et Dominique Thiem. En bref, le cycliste français Benoît Cosnefroy, longtemps maillot à poids du dernier Tour de France, a fini deuxième hier de la Flèche Wallonne, première course de la saison des classiques belges. C'est le Suisse Marc Hirschi qui s'est imposé au sommet du mur de Huy. Le chiffre du jour. 5 et de 5 titres en 2020 pour le Bayern Munich. Les footballeurs bavarois ont remporté hier la Supercoupe d'Allemagne. 3-2 contre le Borussia Dortmund après avoir déjà gagné ces derniers mois. Le championnat, la Coupe nationale, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe.
Et voilà, c'est fait. 5 titres en une seule saison. Merci Jérôme Lacroix. A tout à l'heure pour La France Bouge.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les courses à 5h13 avec vous Thierry Léger. Bonjour Thierry, votre pari gagnant.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi à Auteuil et mon pari gagnant sera le 602 Zofany Bay. Arrivé d'Angleterre après une honorable carrière en plat mais aussi en obstacle, il n'a pas raté sa première sortie en France en s'imposant avec la manière le 10 septembre à Compiègne. Le changement d'hippodrome ne sera certainement pas un motif d'inquiétude car ce sauteur expérimenté a visiblement les aptitudes pour réussir sur les haies d'Auteuil. Dès lors, il devrait pouvoir conserver son invincibilité sur notre sol. Notez bien, pour Auteuil, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 2, Zofany Bay.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1.
5h13, nous allons ouvrir notre pressing, comme chaque matin, les histoires que nous avons repérées dans la presse. Bon alors Omblin, qu'est-ce que vous avez repéré ce matin ?
L'île de Guernesey, coupée du monde, préservée de la pandémie, même mode opératoire que pour la grippe espagnole en 1918. Un modèle à suivre, peut-être, mais un modèle strict.
Et Paul, vous allez nous raconter qu'on a encore retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, on va aller dans le Doubs là ce matin.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h15 sur Europe 1, 13 morts en lien possible avec le Covid dans un EHPAD d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, un foyer épidémique qui avait été découvert il y a 3 semaines. Ce soir, 18h, nouvelle conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran. D'ici là, les maires de 5 grandes villes, Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse, auront été reçus par le Premier ministre Jean Castex. Et puis, Engie accueille favorablement l'offre de Veolia pour lui racheter Suez. Les deux groupes se donnent jusqu'à lundi pour finaliser l'opération.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Paul Lassen. D'abord, un petit coup d'œil aux unes de vos journaux. Le gouvernement à l'heure des choix difficiles, oui, encore après Marseille, Paris et d'autres métropoles pourraient à leur tour basculer en alerte maximale. N'oublions pas les autres malades, c'est l'appel publié par Aujourd'hui en France, appel lancé par des médecins. À Lyon, le Progrès s'intéresse à ces patients qui mettent beaucoup de temps à guérir du Covid, malade depuis 6 mois, c'est le titre à la une. Et puis Sud-Ouest, regarde nos fiches de paye, coup de froid sur les salaires dans cette période de crise. Les villes ont-elles fait trop de place au vélo? C'est la question à la une de l'Est républicain, débat lancé à Nancy sur la cohabitation avec les voitures. Et puis le bien-être animal, on en parle ce matin sur Europe 1, l'élevage intensif pointé par une proposition de loi. Stop ou encore, c'est le titre de la dépêche du midi. Enfin, une en dessin aujourd'hui, celle de Libération qui a invité toute l'équipe de Charlie Hebdo à illustrer ses pages aujourd'hui, numéro spécial à l'occasion des 50 ans du journal satirique. Allez, voici maintenant les 3 histoires que nous avons repérées ce matin. Omblin, vous avez trouvé un lieu où enfin le Covid ne fait pas la une.
Et oui, direction l'île de Guernesey, dans Paris Match, cette petite île britannique située seulement à 50 km des côtes normandes et qui compte 65 000 habitants. Enfin, direction, vous n'y poserez pas le pied à moins de vous plier à des règles sanitaires drastiques. La directrice de la santé publique de l'île est une héroïne. Selon les habitants, dès fin janvier, elle a senti qu'il fallait se préparer sérieusement pour éviter l'hécatombe. Elle a d'abord formé une équipe pour tester, tracer, trouver les malades. Fin mars, l'île a fermé ses frontières, ses magasins, ses écoles. Chaque famille ne pouvait fréquenter que 2 autres familles. Puis le déconfinement s'est fait progressivement pour retrouver pendant l'été une liberté totale. Les vacanciers sur les plages étaient uniquement guernesiers. sans masque. Ils pouvaient se toucher, ils pouvaient s'embrasser, des vacances à la maison. Avec beaucoup d'animations organisées, notamment la Gay Pride la plus importante de l'histoire de Lille, elle a réuni 5000 personnes. Toute l'économie a été revue. Le revers de tout ça, c'est la difficulté de voir les membres de sa famille quand ils ne vivent pas sur l'île. Un sacrifice accepté, c'est le prix de la liberté. Et la compagnie Condor Ferries, la navette entre Guernesey et Saint-Malo qui coule en un an, les voyageurs sont passés de 21 000 à 19. Aujourd'hui, pour aller à Guernesey, quand vous arrivez, la quatorzaine stricte est obligatoire. Gare à ceux qui voudraient enfreindre les règles de l'isolement, l'amende est de 6 600 euros. C'est-à-dire dans Paris Match.
Ouais, et ce n'est pas un refuge, donc on ne peut pas y aller comme ça pour aller se réfugier. Et Guernesey, c'est à peine 60 000 habitants. C'est facile.
C'est ça.
Voilà.
Ça
a été, et oui, c'est une île, ils peuvent se protéger.
Mais c'est un modèle. C'est... Ils ont pu fermer leurs frontières assez facilement, effectivement.
L'endroit où on ne parle pas du Covid, c'est un peu le paradis sur Terre ça. En ce moment. Paul, on a encore retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, l'Est républicain nous raconte qu'une nouvelle fois, l'une des affaires judiciaires les plus mystérieuses de ces dernières années a été relancée. Et oui, une nouvelle fois, on a pensé avoir retrouvé celui qui fascine autant qu'il effraie. Et cette fois-ci, c'est dans le Doubs que la police pensait avoir enfin repéré XDDL, comme on le surnomme aujourd'hui. Dans la région de Pont-de-Roide, un couple offre un café samedi dernier à un homme, un vagabond. Sauf qu'après quelques minutes passées avec lui, plus de doute pour eux, il s'agit de l'homme le plus recherché de France. Le couple appelle alors la gendarmerie pour signaler la ressemblance troublante de ce baroudeur avec Ligonnès. C'est la police judiciaire de Besançon qui mène alors une consciencieuse enquête afin de retrouver la trace de cet homme introuvable plusieurs heures après le signalement. Après investigation, il est finalement localisé, puis interrogé, mais comme tant de fois depuis des années, et malgré une ressemblance physique troublante, notamment sur une photo ancienne de pièce d'identité, la piste de Xavier Dupont de Ligonnès a été écartée. Le mystère reste donc entier.
On se méfie sur les ressemblances physiques troublantes.
Oui,
c'était le cas soi-disant la dernière fois.
À Guy Joao.
Je ne sais pas combien de signalements les policiers français reçoivent chaque semaine de gens qui pensent avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès, mais d'avoir quelques-uns qui le cherchent vraiment. Ouais. Moi, je vous emmène près de Grenoble aujourd'hui, dans l'Isère, où les profs d'un lycée se sont mis en grève après des incidents lors d'un rassemblement d'élèves. Une voiture a été brûlée, droit de retrait exercé par les profs. Tout cela est en partie d'un email prétendument signé Michel Fourniret, de très mauvais goût, vous me direz, surtout quand il est reçu par une lycéenne. Alors l'histoire commence avec ce mouvement dont on a déjà parlé ici. Vous savez, ces lycéennes qui demandent à s'habiller comme elles veulent, quitte à laisser apparaître leur nombril. Il y a quelques jours, une élève du lycée a écrit au proviseur pour dénoncer les consignes vestimentaires strictes. Et le Dauphiné Libéré révèle l'email qu'elle a reçu en réponse. Elle ne manque pas d'air, la merdeuse, je cite, elle n'ose, et je n'ose te dire ce que je lui souhaite, point de suspension. Michel Fourniret, je vous laisse juge de cette évocation du violeur en série quand on parle de vêtements laissant apparaître le nombril. Bref, vous aurez compris qu'elle était en copie par erreur. Bon, ça même, oui. Ça fait quand même très mauvais effet. On ne sait pas qui est l'auteur du mail. Le rectorat précise que cette personne n'est plus en activité dans l'éducation nationale.
C'est
un peu curieux. Ouais. Toujours est-il que diffusé sur les réseaux sociaux, ce mail a mis le feu au lycée. Mais vraiment, littéralement, rassemblement lundi matin qui a dégénéré, une voiture brûlée, un départ de feu dans les toilettes. Un adolescent de 17 ans a été arrêté et les profs qui ont donc exercé leur droit de retrait, c'était mardi. Visiblement, les choses sont un peu apaisé depuis, mais ça s'est passé à Visil et on ne sait toujours pas qui a écrit cet email. Pour l'instant, la lycéenne n'a pas porté plainte.
D'accord.
Elle peut le faire.
C'est violent,
elle
quand
peut
même.
Le faire, oui. Même en copie, oui.
Voilà pour l'histoire du jour. Rideau sur le pressing. Merci à tous les deux. À demain.
Europe 1.
Il est 5h22 et nous partons vers le Pays Basque à présent pour les doigts dans l'assiette avec ce matin un nouvel arrivant dans la bande. Bonjour Christophe Gonzalez.
Bonjour.
Vous êtes fromager à Bayonne. Vous êtes même vice-champion du monde en matière de fromage. Alors ça, c'est curieux. Vous allez nous expliquer et on va découvrir votre travail. À tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
5h23, c'est donc l'heure des doigts dans l'assiette, notre rendez-vous en direct chaque matin avec nos producteurs, nos agriculteurs, nos artisans et avec un nouvel arrivant ce matin, Christophe Gonzalez. Bienvenue donc dans cette bande des doigts dans l'assiette. Vous êtes fromager à Bayonne et je le disais, vous avez été vice-champion du monde. Il y a des championnats du monde du fromage ?
Oui, tous les deux ans, vous avez le concours mondial du meilleur fromager qui se tient à Tours. Ouais. Et j'ai participé il y a 3 ans, en 2017, et j'ai fini second.
Grâce à quoi ?
Grâce à quoi ? Je ne sais pas exactement. Après, j'ai...
Quelle recette vous aviez présentée ?
La recette, j'avais présenté... Alors, il y a deux recettes, même voire trois, si on peut parler du fromage qu'on affine et qu'on présente. La recette en elle-même, c'était il fallait travailler un brie que j'ai retravaillé en forme de cheesecake. J'ai fait une base de cheesecake avec un biscuit spéculoos et des fraises au basilic citron par-dessus.
D'accord, voilà, le cheesecake au brie. Alors, vous êtes très créatif, c'est un peu votre particularité à Bayonne. Vous créez des fromages assez, assez atypiques. Qu'est-ce que vous avez en vitrine en ce moment ?
Alors, en ce moment, bon, on est sur la période des cèpes, donc j'ai des camemberts aux cèpes, j'ai des brie aux noix, j'ai des fromages que j'affine au saké, à la bière... des fromages fumés. Là, je suis en train d'essayer un fromage que j'affine au rhum.
Ah oui.
Voilà, un rhum à la poire. Et voilà.
Quel type de fromage on peut affiner au rhum ?
Alors là, c'est une pâte pressée non cuite, style tome de abeille de Tamier. Exactement, fromage de Savoie.
Du fromage de Savoie affiné au rhum. Ces fromages, vous les exposez dans votre boutique, je crois, un peu comme dans un musée, dans leur écrin, dans leur vitrine ?
Oui, c'est ça. J'ai fait une boutique complètement sur mesure. J'ai fait des vitrines avec des artisans frigoristes basques. Du coup, on a mis un an à mettre cette boutique au point. C'est tout sur mesure. Un fromage à un support derrière des vitrines vitrées. C'est assez conceptuel, ouais.
Voilà, un musée du fromage en quelque sorte. Vous êtes au pied de la cathédrale de Bayonne. Alors, vous avez eu un parcours international à Londres, à Tokyo, à Paris, avant de retourner chez vous au Pays Basque. C'est dans tous ces voyages, dans toutes ces capitales que vous avez appris, que vous vous êtes formé ?
Exactement. J'ai surtout parfait mon parcours à Paris, chez un meilleur ouvrier de France. Tokyo m'a apporté une dimension très, on va dire, très minutieuse du produit. Un respect qu'on n'aurait pas, peut-être pas en France.
Ouais.
Et puis Londres, l'aspect un petit peu international, voilà, rencontrer beaucoup de gens. C'était un parcours assez atypique parce que j'étais fromager dans chaque ville, mais très intéressant, très formateur.
Et vous avez choisi de retourner chez vous ?
Au Pays Basque, exactement. Ça fait 2 ans maintenant. Tout se passe très bien. Les gens sont très réceptifs au concept parce que c'est une boutique assez conceptuelle. Et tout se passe très bien.
Un dernier conseil, qu'est-ce qui marche le plus dans votre boutique en ce moment ?
C'est marrant, mais c'est un dessert. C'est la tarta de queso. C'est une tarte au fromage, recette basque espagnole que je reproduis. C'est un dessert qui fait un tabac à San Sébastien, en Espagne.
De l'autre côté de la frontière, ouais.
Voilà, de l'autre côté de la frontière. Et ça marche énormément.
Ben voilà, une petite tarta de queso, tarte au fromage du Pays Basque. Merci Christophe Gonzalez de rejoindre la bande des doigts dans l'assiette. On vous retrouvera très vite sur Europe 1 et vous nous ferez vivre votre quotidien, vos nouveaux produits, vos nouvelles créations tout au long de cette saison. À bientôt, bonne journée.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Laurent Cabrol, c'est à vous pour la météo avant le journal.
Eh bien, la pluie est là. Et c'est une pluie qui passe assez rapidement. C'est une perturbation qui est là sur le Poitou-Charentes, l'Orléanais, la région parisienne, la Somme, le Nord. Et elle se dirige vers la Champagne-Ardenne, le Sud-Ouest, puis la région lyonnaise, le Dijonais et les Vosges. Puis dans l'après-midi, elle se situera, cette pluie, sur l'Alsace et la Franche-Comté. Vous l'avez compris, c'est une zone de pluie qui passe assez vite en général. Et elle sera suivie d'une autre zone de pluie qui, elle, nous inquiète. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. La Bretagne et la Loire-Atlantique seront touchées dans le courant de la journée par cette deuxième zone de pluie qui pourrait engendrer, alors on se demande encore quelle sera la puissance qui pourrait engendrer une tempête que l'on appelle déjà Alex. Cette tempête pourrait arriver la nuit prochaine. Enfin, nous sommes en train d'étudier la situation et c'est une tempête qui semble assez importante. Les températures maximales aujourd'hui entre 15 et 18 degrés et avec des pointes à 20 degrés à Lyon, alors 15-18 à peu près partout, 17 à Paris, 20 degrés à Lyon pour les plus chaudes et 24 à Perpignan.
Ouais, et on surveillera avec vous cette tempête. Laurent Cabrol, on vous retrouve tout à l'heure juste avant 6h.
Bah oui, c'est une journée très nuageuse.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue à tous si vous vous réveillez. Merci de nous rejoindre dans le 5-7. Et bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal, il est 5h30.
Ça va pouvoir vraiment nous permettre de respirer, de ne pas se trouver devant l'impasse. On a ces quelques journées-là dans lesquelles on peut piocher pour passer ce cap difficile.
Souvent,
fatigués physiquement et moralement, les salariés qui s'occupent d'un proche malade ou handicapé ont désormais droit à un congé indemnisé de 3 mois. Les détails dès le début de ce journal. À quelle sauce les restaurateurs parisiens seront-ils mangés? Ils attendent avec inquiétude les annonces du ministre de la Santé en fin de journée. Une éclaircie dans un ciel économique très sombre. PSA Sochaux va recruter 250 intérimaires. Objectif, revenir à la même production qu'avant le Covid. Et puis, pas de sanctions pour les footballeurs Neymar et Alvaro. La commission de discipline de la Ligue n'a pas trouvé de preuve d'injures racistes ou homophobes lors du match PSG-OM.
Peut-on mettre fin à l'élevage des poulets en batterie? Ne plus faire que de l'élevage en plein air? C'est la transition, la bascule que proposent plusieurs députés. Cédric Villani en tête dans une proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui. Est-ce faisable, économiquement viable? Les réponses dans 10 minutes du président de l'interprofession volaille, Jean-Michel Schaeffer. Et puis ce sera La France bouge avec Jérôme Lacroix. Bienvenue à vous tous, 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est peut-être votre cas. 8 à 11 millions de Français aident au quotidien un proche âgé, malade ou handicapé. C'est beaucoup d'engagement, beaucoup de temps évidemment.
Oui, à partir d'aujourd'hui, le congé proche aidant entre en vigueur. Nouveau dispositif qui permet aux salariés de s'arrêter en étant indemnisé. Olivier Samin.
Le droit pour un salarié de se mettre en congé pour s'occuper d'un enfant handicapé ou d'un parent âgé, il existe depuis 2016. Mais jusqu'à présent, peu l'utilisaient, car une fois éclusés les congés payés et les RTT, ne restaient que les jours sans solde. C'est ça qui change à partir d'aujourd'hui. Désormais, le salarié dispose d'un capital de 66 jours, 3 mois, dans lequel il pourra puiser. Et pour chaque jour consommé, il touchera une allocation versée par la caisse d'allocation familiale, allocation de 43 euros s'il vit en couple, et de 52 euros s'il vit seul. Pour Alexandra, maman d'une petite fille de 9 ans, atteinte d'une maladie génétique très rare, ça va changer beaucoup de choses, même si 3 mois, dit-elle, on arrive vite au bout.
Quand c'est un enfant qui a une longue vie devant lui et des maladies évolutives, 3 mois, c'est vrai que c'est peu. Mais il faut savoir être reconnaissant, quand il n'y avait rien avant, c'est quand même une main sur l'épaule. Et pour nous, pour notre famille, dans notre situation, ça va pouvoir vraiment nous permettre de respirer, de ne pas se trouver devant l'impasse. On se dit, voilà, on a ces quelques journées-là dans lesquelles on peut piocher pour passer ce cap difficile.
Ce congé indemnisé de 3 mois, qui peut être pris en une seule fois ou fractionné, est ouvert aux salariés, on l'a dit, mais aussi aux demandeurs d'emploi et aux indépendants.
Un congé qui pourrait être renouvelé jusqu'à 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
Et ne manquez pas tout à l'heure à 6h40 le témoignage de l'un de ses aidants. Je recevrai Jean-Marc Généreux. Vous le connaissez comme juré de Danse avec les Stars. Et bien, il consacre beaucoup de temps et le reste de sa vie à s'occuper de sa fille très lourdement handicapée.
Et parmi les autres mesures qui entrent en vigueur en ce 1er octobre, un nouveau service des caisses d'allocation familiale aux familles monoparentales. Les CAF pourront servir d'intermédiaire entre ex-conjoints en cas de problème de paiement des pensions alimentaires. Et puis la hausse aujourd'hui des tarifs du gaz, plus 4,7%.
5h34 sur Europe 1, rendez-vous avec Jean Castex aujourd'hui pour les maires de Paris, de Lyon, de Lille, de Grenoble et de Toulouse. Ils doivent discuter des mesures les plus efficaces face à l'aggravation de l'épidémie.
Oui, en fin de journée, la prise de parole d'Olivier Véran sera particulièrement scrutée. Le ministre de la Santé devrait faire le point sur les fameux indicateurs, signes du passage en zone d'alerte maximale. À Paris notamment, les patrons de bars et de restaurants n'ont qu'une peur: la fermeture. Et même s'il n'y a aucune certitude d'une annonce dès ce soir, il préfère s'y préparer, comme l'a constaté Pierre Herbulot.
Vous pouvez voir là, ces frigos-là, en ce temps mal, sont tous pleins. Là, ça se restreint voilà, sur 2 timbres.
Le garde-manger est presque vide. Celui du chef du Baudelaire, Guillaume Goupil, le spectre d'une nouvelle fermeture, a eu raison de la carte de son restaurant.
On va travailler à flux tendu. On va faire les commandes au jour le jour par rapport aux clients qui ont réservé et avoir en tout cas un minimum de stock pour prévoir cette potentielle fermeture.
Dans une brasserie du quartier voisin, le patron va même plus loin.
J'ai dit à mon responsable de salle et à mon chef de cuisine de ne plus passer commande pour le moment.
Les annonces du gouvernement ce soir, un secret de polichinelle, croit savoir Stéphane Manigold, propriétaire de 4 restaurants à Paris.
Je suis convaincu que nous allons fermer.
Il a donc les deux.
On a validé ce matin des emballages éco-responsables pour faire de la vente emportée. On a fait la proposition au maire de pouvoir mettre des espaces de vente emportée sur ces terrasses qui seront vides quand il va neiger et pleuvoir. Diriger, c'est prévoir, faut anticiper. On n'attend pas les directives pour nous se mettre en ordre.
Un œil sur le produit, une main sur le couteau et une oreille sur les déclarations du ministre de la Santé qui devrait s'inviter malgré lui dans toutes les cuisines parisiennes ce soir.
Les restaurateurs ne sont pas les seuls à avoir peur de l'avenir. Les perspectives économiques sont inquiétantes avec la multiplication des plans sociaux. Et pourtant, une bonne nouvelle émerge. Ce matin, elle nous vient du groupe PSA.
Oui, pour son usine de Sochaux, il recrute 250 intérimaires pour relancer le VSD, en clair le travail, les vendredis, samedis et dimanches à partir de novembre. La production, ce sera donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans cette usine emblématique du groupe automobile. Arthur Elmbacher, vous êtes sur place pour Europe 1. Le site Peugeot retrouve dès maintenant son activité d'avant le coronavirus.
Et c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. C'est vrai que ça charbonne bien en ce moment, nous disent les ouvriers ici à Sochaux, pas mécontents de la santé insolente de leur usine.
Ah bah oui, je suis fier, oui. Ce qui se passe en PSA, quoi, c'est chouette, quoi. Je suis content, c'est très bien. Surtout après la crise, quoi.
Tant mieux, ça va faire marcher la région, c'est bien.
Parce qu'ailleurs, c'est moins rose, nous dit Éric Pelletier de Force Ouvrière. Regardez, à 20 km d'ici, par exemple, General Electric à Belfort.
On voit quand même bien qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est très compliqué aujourd'hui, où les salariés, ben, ils risquent dès demain de se retrouver dans la rue. Hein. Donc voilà, c'est quand même une fierté d'avoir effectivement aujourd'hui du boulot. C'est quand même une fierté d'avoir des produits qu'ils vendent.
Alors pourquoi ça marche? Écoutez la réponse du directeur de la production de l'usine, Christophe Montavon.
On a la chance de fabriquer sur le site de Sochaux deux véhicules qui ont été véhicules de l'année, la Peugeot 308 et plus dernièrement la 3008, qui est actuellement un succès qui ne se dément pas. Maintenant, c'est vrai que revenir six mois après à un niveau de production qui est équivalent à celui qu'on avait, on n'aurait pas misé là-dessus aussi rapidement, évidemment.
Dans les semaines qui viennent, pas loin de 9000 personnes travailleront ici à Sochaux à la fabrication de 2100 voitures chaque jour.
Arthur Elmbacher à Sochaux pour Europe 1.
Le foot et finalement Neymar et Alvaro González n'écopent d'aucune sanction. Les deux joueurs étaient accusés d'insultes racistes et homophobes lors du PSG-OM du 13 septembre dernier.
Oui, la commission de discipline de la Ligue décide de ne pas aller au-delà des décisions déjà annoncées la semaine dernière. Elle n'a pas assez d'éléments probants pour prouver les accusations de part et d'autre. Cyril de la Morinerie.
Pendant 15 jours, la Ligue a instruit un dossier, interrogé Neymar et Alvaro González, décortiqué les images de cette fameuse 36e minute où les deux joueurs se seraient insultés et même consulté un spécialiste en lecture labiale pour arriver à ce constat. Aucun élément tangible ne permet de conclure à un comportement raciste ou discriminatoire. La commission de discipline a donc décidé de ne prendre aucune sanction, explique son président Sébastien Deneux.
Il n'y avait pas dans le dossier sur l'échange Alvaro-Neymar d'éléments qui permettent à la commission de dépasser les propos des uns par rapport à ceux des autres et la parole de l'un par rapport à celle de l'autre et qu'aucun élément objectif ne permet à la commission de se fonder, là encore, pour rentrer en voie de sanction disciplinaire.
Neymar et Alvaro González s'en sortent bien. Les deux joueurs risquaient jusqu'à 10 matchs de suspension, ce qui les aurait privés de terrain jusqu'à la mi-décembre. L'attaquant parisien, qui souffre d'une contracture à la cuisse, pourra donc, s'il est remis, jouer dès vendredi face à Angers. En revanche, ses ennuis avec le fisc espagnol ne sont pas terminés. L'ancien joueur de Barcelone est sur une liste noire pour une dette dépassant 34 millions d'euros.
Et aujourd'hui, tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG, Marseille et Rennes connaîtront leurs adversaires en phase de poule.
Voilà, retour au sport, ça fera pas de mal. C'était le journal d'Hélène Zelani, il est 5h39. Les courses avec vous, Thierry Léger. Quels sont vos pronostics pour le quintet?
C'est sur les haies de l'hippodrome d'Auteuil que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 chevaux tous âgés de 4 ans, j'ai choisi les numéros 1 gagneurs, 14 Ayette et 5 Prince du Roum, classés dans cet ordre aux 3 premières places d'un quintet similaire le 9 septembre à Auteuil, disputés sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi. Ces 3-là sont donc incontournables et indissociables. Ensuite, on est obligé de retenir les numéros 2, Polydayane Alanjac et 3 Bécarenbo, deux des 3 pensionnaires du maître-entraîneur François Nicole, ayant de nombreuses lignes à sa disposition dans cette génération. Méfiez-vous aussi du numéro 7 Stopline, aussi à l'aise en haie qu'en stiple et toujours présenté à bon escient par son entraîneur Daniel Amélé, qui n'aime jamais courir ses pensionnaires sans avoir une réelle chance. Enfin, les numéros 6 Goldalen et 8 Zurekin peuvent, comme beaucoup d'autres, compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, As 14, 5, 2, 3, 7, 6 et 8.
Merci Thierry Léger, on retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr. Il est 6h20.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour Jean-Michel Schaeffer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous présidez l'interprofession de la volaille de chair. L'élevage en question, à l'heure où le bien-être animal est une préoccupation de plus en plus forte au sein de la société. Le député Cédric Villani a déposé une proposition de loi qui est examinée aujourd'hui. Il veut mettre fin à certaines conditions d'élevage, l'élevage en cage. Il demande l'accès en plein air obligatoire pour les animaux d'ici à 2040. Est-ce que c'est réaliste pour vous dans la filière de la volaille ?
Écoutez, nous, dans la filière de la volaille, notamment en France, et c'est ça qui fait notre particularité, c'est qu'on a développé depuis très longtemps une diversité des modèles d'élevage. On a de l'élevage standard, on a de l'élevage label rouge, on a de l'élevage en bio, avec du plein air. On a aujourd'hui en France déjà 20% des élevages en plein air, ce qui est beaucoup plus que chez tous nos voisins européens. Nous, la volonté de notre filière, c'est de développer en fait des produits pour tous les types de consommateurs.
Alors, il reste quand même 80% dans le système intensif, en tout 800 millions de poulets élevés chaque année en France. Il y a des images qu'on a tous vues, des images à la fois filmées par des associations ou par des journalistes de ces élevages en intérieur, de poulets qui n'ont jamais aucun contact avec l'extérieur, de poulets entassés avec une densité extrêmement forte. Le regard de la société a changé face à ces élevages. Il y a une demande du consommateur d'aller vers un élevage plus respectueux. Est-ce qu'on en fait suffisamment en France ?
Nous, la réponse qu'on donne, elle est aux consommateurs qui achètent, c'est qu'on a une baisse des achats dans tous les circuits de vente où les consommateurs achètent leurs produits pour faire la cuisine. Par contre, on a une explosion de la consommation dans tous les circuits de restauration commerciale. Et malheureusement pour nous, pour la filière, ce marché de la consommation est principalement alimenté par des importations qui ne viennent pas d'Union européenne.
82% des Français se disent favorables à l'interdiction de l'élevage en cage, 91% pour l'obligation d'un accès extérieur. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas ce que les Français achètent.
Écoutez, nous on a développé une offre très très diversifiée qui se retrouve d'ailleurs nulle part ailleurs chez nos partenaires européens à ce niveau-là, quoi. Bon, moi je fais un constat aujourd'hui très factuel. Par exemple, dans la filière plein air, à l'heure actuelle, on a du mal à écouler l'ensemble de nos volumes parce que entre un poulet standard français et un poulet label, le produit est quand même deux fois plus cher. Et entre un poulet standard français et un poulet bio, il est trois fois plus cher. Donc nous, en fait, les filières sont en place. On est capable de produire dans tel ou tel modèle d'élevage déjà à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que nous, la réponse, elle doit se faire par l'achat du consommateur. Et à l'heure actuelle, presque la moitié des poulets consommés en France ne sont plus produits en France. Et nous, la volonté qu'on a, nous, dans notre filière, c'est de produire et de regagner notre souveraineté alimentaire pour que le français mange du poulet français.
Et vous dites que le plus gros, c'est la restauration, notamment la restauration rapide, l'achat de produits en livraison, l'achat de produits industriels. Là, il n'y a pas forcément d'étiquetage. On ne sait pas d'où vient le poulet.
Oui, alors effectivement, c'est une demande forte qu'on a, nous, dans la filière. C'est qu'on puisse étiqueter de manière obligatoire tous les lieux de consommation. Aujourd'hui, on a l'étiquetage obligatoire pour les supermarchés, les boucheries, enfin tous les circuits de vente pour la consommation à la maison. Mais on n'a pas l'étiquetage obligatoire en restauration hors domicile, alors que ça représente presque la moitié des volumes qu'on consomme aujourd'hui. Et c'est vraiment une demande forte qu'on fait à l'État et à l'Union européenne de pouvoir également étiqueter l'origine pour que le Français puisse savoir qu'il mange français.
Et puisse savoir s'il mange un poulet élevé en batterie ou s'il mange un poulet élevé en plein air. Ce qu'on ne sait pas toujours quand on va au restaurant.
À l'heure actuelle, vous ne savez même pas de quel pays il vient.
Oui.
Et à l'heure actuelle, avec tous les accords de libre-échange qui ont été signés par l'Union européenne, on importe 1 million de tonnes de viande de volaille de principalement trois pays, le Brésil, la Thaïlande et l'Ukraine. Et ça, c'est pas normal. D'où notre ambition, c'est de refaire du poulet français pour les Français, dans tous les lieux de consommation.
Alors justement, le poulet français, Cédric Villani, lui, défend une montée en gamme de l'élevage français, qui serait un gage de qualité. On ne peut pas se dire qu'en France, on pourrait progressivement abandonner le poulet bas de gamme pour se concentrer sur du poulet avec des élevages en plein air.
La montée en gamme dans notre filière, elle a déjà été faite. On a fait des filières plein air, mais avec actuellement des difficultés d'écoulement parce que le produit est bien évidemment plus cher à produire. Après, nous, ce qu'on demande...
On ne peut pas faire plus que 20%, vous dites, on ne peut pas aller au-delà des 20% aujourd'hui.
Écoutez, c'est le consommateur qui doit le décider par son acte d'achat. Après, nous, le préalable indispensable qu'on a, c'est au niveau européen que les décisions doivent se prendre, c'est qu'il faut revenir sur les accords de libre-échange qui ont été signés, parce qu'on importe des produits qui ne respectent pas les réglementations qui sont imposées à nous. Du coup, ces produits rentrent de plus en plus sur notre marché et approvisionnent notamment tout ce marché de la restauration hors domicile qui est plébiscité par le consommateur. Et après, voilà, avancer également sur l'étiquetage pour qu'on puisse après envisager d'autres choses, quoi.
Pour autant, pour vous, il n'y a rien à changer. Vous dites qu'il n'y a rien à changer dans les méthodes d'élevage intensif aujourd'hui des poulets sur le bien-être animal. On ne peut rien changer, améliorer.
Il y a beaucoup de démarches qui ont été mises en place par les éleveurs. Dans l'ensemble des modèles d'élevage, il y a eu un gros travail de fait, notamment en termes d'hygiène, pour diminuer la consommation d'antibiotiques, qui a baissé quand même de 60% sur ces dernières années. Il y a également un gros travail qui est fait pour remettre de la lumière naturelle sur les bâtiments. Mais tout ça, ça a des coûts. C'est des investissements énormes pour les éleveurs. Nous, on ne peut que le faire si on arrive à le répercuter dans le prix final de notre produit, quoi.
100 000 emplois, la filière volaille en France, 25 000 éleveurs. Et on entend votre appel ce matin aux consommateurs, finalement, de mettre en accord ses actes et ses convictions en achetant au maximum, en tout cas, du poulet élevé en plein air. Merci beaucoup, Jean-Michel Schaeffer, d'avoir été en direct avec nous ce matin.
Merci.
Président de l'interprofession volaille. Bonne journée à vous.
Bonne journée. Europe 1.
5h46 sur Europe 1. C'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France. Jérôme Lacroix, où est-ce que vous nous emmenez ce matin?
À Bois-Guillaume, Seine-Maritime, tout près de Rouen. Je vous présente ces jardiniers, ces cultivateurs qui n'utiliseront jamais un seul produit chimique pour faire pousser leurs fruits et leurs légumes. Alors comment font-ils pour protéger potagers et vergers des insectes gourmands? Ils ont un ami mystère. La bonne astuce pour tous les jardiniers amateurs.
Allez, l'ami mystère, c'est à suivre avec Jérôme Lacroix. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sébastien Krebs.
5h47 sur Europe 1, peut-être de nouvelles restrictions en vue à Paris qui devraient passer si l'on en croit les chiffres en zone d'alerte maximale. Inquiétude aussi pour Lyon, Grenoble, Lille et Toulouse. Les maires de toutes ces villes ont rendez-vous ce matin avec le Premier ministre Jean Castex. Les conclusions de l'autopsie de Victorine, cette jeune fille de 18 ans retrouvée morte à Villefontaine dans l'Isère. Elle serait décédée par noyade, mais ce ne serait pas un accident. Et puis à Roland-Garros, plus qu'un seul Français en lice pour le troisième tour, le jeune Hugo Gaston, 20 ans, 239e mondial. Il affrontera le Suisse Stan Wawrinka. Ça va pas être facile. 5h48.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de la France bouge. Avec vous, Jérôme Lacroix, tous les matins, vous nous racontez les initiatives constructives que vous repérez un peu partout dans nos régions aujourd'hui. Une idée qui ne manque pas de piquant.
Bienvenue au Jardin familial des Portes de la Forêt, association basée à Bois-Guillaume, Seine-Maritime, au nord de Rouen. Les jardins familiaux, ce sont 116 jardiniers, cultivateurs de fruits, de légumes, sur des parcelles parfois de plusieurs centaines de mètres carrés. Leur credo indéfectible, cultiver sans produits chimiques. Et ce, malgré, comme partout, ces insectes et autres gastéropodes gourmands qui s'attaquent à leur culture. Leur solution, faire appel au pouvoir du hérisson.
Ah oui, il a quoi comme pouvoir le hérisson?
Consommateur de limaces, de cloportes, mais aussi de tout un tas d'insectes. Et voilà comment il peut être le meilleur ami du jardinier. Comme le raconte le site d'actu normande 76 Actu, les jardiniers du réseau de Bois-Guillaume décident d'en intégrer dans leur jardin pour remplacer les produits chimiques.
Et sur ce coup, jardiniers et hérissons se rendent des services mutuels.
Oui, pour dégoter leurs hérissons, les jardiniers de Bois-Guillaume ont noué un partenariat avec Chêne, une association locale de sauvegarde de la faune. La structure récupère les hérissons affaiblis s'ils ont respiré trop d'insecticides chimiques ou s'ils ont été percutés par un véhicule. Elle les recueille, elle les remplume jusqu'à leur poids de forme, entre 60 et 100 grammes, avant de les lâcher dans les parcelles cultivées des jardiniers volontaires. Alors ces jardiniers, ils doivent payer 15 euros, somme qui servira à l'association pour acheter des abris pour les hérissons. Et c'est un beau cercle vertueux parce que des hérissons protégés par l'homme pour service rendu au potager et au verger.
Ah ben voilà, sauvons les hérissons, ils peuvent à leur tour sauver nos jardins.
Exactement.
La France bouge avec Jérôme Lacroix tous les matins. Allez, on regarde maintenant les réseaux sociaux avec vous, Paul Lassen, et c'est ce fameux bang qui a beaucoup agité les réseaux.
Absolument.
Hier.
Absolument, il est 11h56 hier, et alors que certains en région parisienne étaient déjà peut-être en train de déjeuner, en train de travailler ou de flâner devant Roland-Garros, voilà ce qu'ils ont pu entendre. C'est la vidéo la plus partagée sur les réseaux sociaux hier, ce gros boom, et le regard inquiet de Dominique Kupfer sur le court central de Roland-Garros, alors que le joueur allemand semble penser à une explosion. C'est la panique également sur les réseaux sociaux. Suis-je le seul à avoir entendu cette explosion ? J'espère que ce n'est pas encore un attentat, se demande un internaute. Plusieurs minutes d'incertitude avant qu'une communication officielle n'arrive, la préfecture de police de Paris sur Twitter rassure tout le monde, mais globalement, c'est la stupéfaction. Comment est-ce qu'un truc aussi puissant peut voler aussi bas et près de la ville, se demande Pierre. Alors le fait est qu'il n'est pas passé si près et surtout qu'il faut bien comprendre la puissance d'un rafale qui passe le mur du son.
Quand l'avion atteint cette vitesse, l'air qui va dans un sens n'a plus le temps de revenir et il se forme alors un bourrelet d'air et c'est ce bourrelet d'air qui constitue le mur du son.
Alors, c'est Jamy.
C'est Jamy de C'est pas sorcier qui lui-même a ressorti une vieille vidéo de l'émission C'est pas sorcier pour expliquer aux gens comment ça se passe. Alors au final, c'est plus d'une dizaine de mots clés en rapport avec cet incident qui ont fait partie des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux hier. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien.
Voilà, c'était donc un avion qui allait porter secours, ou en tout cas aller contrôler un autre aéronef qui avait perdu le contact radio. Tout est bien qui finit bien. Merci Paul Lassen, à demain. On de la raconte tous les jours à 14h sur Europe 1. Vous retrouvez déjà l'histoire du jour en podcast en juin 1987. L'histoire de Jacques Michel qui se réveille sur un banc en face de l'Opéra Garnier à Paris. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il n'a pas de papier, il a oublié les 30 dernières années de sa vie. C'est digne d'un roman aujourd'hui. On de la raconte, le récit à télécharger sur Europe 1.fr.
Europe 1.
Il est 6h05 et nous ouvrons la partition d'Omblin Roche. Chaque matin, l'histoire derrière un artiste et aujourd'hui, l'histoire derrière le king du rock'n'roll, Elvis Presley. Vous nous racontez ce matin, Omblin, que ce dont il rêvait, c'était de marcher dans les pas de James Dean, mais Elvis Presley est passé à côté de sa carrière au cinéma dès son premier film.
Depuis le début de l'année 1956, Sébastien, Elvis Presley est le phénomène qui bouleverse l'Amérique, une ascension vers le succès enclenchée par le single Blues Romania en une version rock, Heartbreak Hotel. On n'a jamais encore vu ça, un blanc qui chante et danse de la même façon qu'un noir.
Elvis Presley a 21 ans, il vient de signer avec l'imposante maison de disques RCA et son impresario, c'est le colonel Parker.
Un faux colonel, mais un vrai businessman. Il faut imaginer le pouvoir des impresarios, des managers à l'époque. Ils décidaient quel contrat signer, ils décidaient pour leur poulain alimenter leur compte en banque. Dès Heartbreak Hotel, ce colonel Parker devient le manager personnel d'Elvis Presley et se montre d'une efficacité redoutable. You ain't nothing but a hand.
Le colonel Parker a vite compris que le cinéma allait être une formidable vitrine pour présenter aux yeux du monde son jeune prodige.
Avec son appui, Elvis Presley rejoint le casting du film The Reno Brothers. Lorsque débute le tournage en août 1956, il est la star du moment avec déjà 4 numéros 1 en 8 parades. Son rôle de Clint Reno est réécrit pour être étoffé.
Un mot de l'histoire ?
Alors c'est un western, hein. Un hors-la-loi retourne au bercail à l'époque de la guerre de sécession pour découvrir que son jeune frère, Clint, Elvis, a épousé sa fiancée. Si au départ Elvis Presley devait se contenter de faire l'acteur, il découvre, furieux, qu'il doit chanter aussi. Il y est opposé, ne voulant pas mélanger les deux carrières, mais le convaincant colonel Parker arrive à le faire céder. You know I can be
fine. De ce film, au final, on ne va retenir qu'une chanson.
Elle donne finalement son nom au long métrage de Reno Brothers et rebaptisé Love Me Tender. 2 mois avant la première au cinéma Paramount de New York, le 9 septembre 1956, Elvis Presley est invité à chanter dans l'émission reine de la télé américaine, The Ed Sullivan Show. Devant 60 millions de téléspectateurs, le King entre dans la légende. Le standard téléphonique de la chaîne sature d'appels et les disquaires se retrouvent le lendemain submergés de commandes. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. Love me
Tender, comme le film où apparaît donc pour la première fois Elvis Presley. En français, c'était les cavaliers du crépuscule.
Ouais, drôle de nom. Et pour la petite histoire, figurez-vous que le 1er octobre 1956, donc un mois et demi avant la sortie du film, les producteurs montrent les cavaliers du crépuscule, Love Me Tender, à des spectateurs. Elvis devait mourir à la fin. Tollé général, la scène est rejouée.
On ne peut pas faire mourir Elvis.
Surtout pas dans un premier film.
La partition d'Omblin Roche tous les matins, juste avant 6h. À demain, Omblin.
À demain.
Laurent Cabrol.
Eh bien, écoutez, il y a le temps qui règne en ce moment sur la France et qui va régner tout au long de cette journée, c'est-à-dire le passage d'une perturbation, pluvieuse, d'intensité tout à fait ordinaire, qui va toucher le Poitou-Charentes, la Somme, qui touche déjà le centre, la région parisienne. Enfin bref, c'est une zone de pluie qui va gagner ensuite les régions de l'Est. En fin de journée, l'Alsace et la Franche-Comté. Une autre zone de pluie arrive. Elle va concerner cette fois la Bretagne et la Loire-Atlantique. En fin de journée, cette deuxième zone de pluie pourrait être l'avant-garde d'une tempête que l'on appelle Alex, et qui, cette tempête, on ne sait pas exactement quelle sera sa puissance. 130 km/h dans les terres, 160 sur les côtes. Les départements les plus touchés, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, enfin les plus menacés disons, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique, des îles comme la Belle-Île, Ouatt ou Édic. Et donc cette tempête, eh bien, nous pose beaucoup de questions, parce qu'elle arrive très tôt en saison et que les arbres sont chargés de feuilles, et que bon, dans ces cas-là, il y a beaucoup plus de prise au vent et on craint beaucoup beaucoup. Alors pour l'instant, je n'en dis pas plus. Les températures d'aujourd'hui entre 16 et 20 degrés, mais je continue à enquêter.
On continue de suivre cette tempête, Alex, avec vous, Laurent Cabrol. Merci, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous vous réveillez, jeudi 1er octobre. Tout de suite, un nouveau journal complet. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h sur Europe 1.
Toutes nos entreprises sont à genoux. Si les dés sont jetés par le ministre de la Santé, nous allons tout droit vers une casse sociale et économique jamais perçue jusqu'à maintenant.
L'inquiétude des restaurateurs et patrons de bars à Paris, la capitale, est à deux doigts de se retrouver en zone d'alerte maximale, ce qui pourrait entraîner la fermeture totale des établissements. Votre facture énergétique va s'alourdir, les tarifs du gaz bondissent de près de 5% à partir d'aujourd'hui. Dans ce journal également, Yannick Jadot en campagne, à la campagne, auprès de producteurs de betteraves bio. La crainte et la colère des parents d'élèves après l'agression d'un lycéen en pleine classe en Seine-Saint-Denis. Et puis des taxis électriques volants au-dessus de Paris. Ce n'est pas le scénario du dernier film de Luc Besson, non. L'expérimentation aura lieu en juin prochain.
Voilà, on écoute Le Monde changer ce matin aussi sur cette question du bien-être animal qui prend de plus en plus de place. Une proposition pour mettre fin aux élevages en cage. Une loi promise pour faire disparaître les bêtes sauvages des cirques. Mon invité inattendu dans un quart d'heure est un chanteur qui, entre deux albums, élevait des chèvres en Ardèche et des chevaux aussi. Stewball, ça vous dit quelque chose? C'est un amoureux de la nature qui nous rejoint à 6h15. Et puis, on retrouvera Fanny Agostini, notre planète. Bon réveil à toutes et tous, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Se dirige-t-on, comme à Marseille, Aix-en-Provence et en Guadeloupe, vers une fermeture totale des bars et des restaurants à Paris? Le coronavirus gagne du terrain et les indicateurs continuent de se dégrader dans la capitale. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit s'exprimer en fin de journée et les professionnels craignent déjà de nouvelles restrictions. Écoutez la colère et le désarroi de Roland Aigui, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Laissez-nous travailler, laissez-nous ouverts. On est prêt à faire des efforts. Les mauvais élèves, il faut qu'ils soient sanctionnés. Mais il ne faut pas qu'ils mettent effectivement toute une filière aussi importante que la nôtre en jeu. On n'est pas sur de la relance, on est sur de la survie économique. Toutes nos entreprises sont à genoux. Et si les dés sont jetés par le ministre de la Santé, nous allons tout droit vers une casse sociale et économique jamais perçue jusqu'à maintenant. D'ici la fin de l'année, nous aurons environ 300 000 chômeurs supplémentaires et plus de 30 000 entreprises qui seront en faillite. Voilà l'enjeu. On n'est pas nié. On sait très bien que si jamais on commence par l'Île-de-France, Grenoble va suivre, Lille va suivre, Lyon va suivre. C'est la fin de la profession.
Le patron de Lumière, Roland Aigui, avec Jean-Gabriel Bourgeois. Et tout comme Paris, donc Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse pourraient également basculer en zone rouge foncée sur la carte de circulation active du virus. Les maires des cinq villes sont reçus par Jean Castex ce matin. Le Premier ministre va demander aux élus un durcissement des mesures.
Jeudi 1er octobre, début de mois, et du changement dans votre quotidien.
Et dans votre portefeuille notamment, les tarifs réglementés du gaz augmentent sensiblement, plus 4,7%. Après avoir diminué depuis le début de l'année, les prix bondissent suite à la forte demande à l'approche de l'hiver. Alors selon Xavier Pinon, le cofondateur de Selectra, en comparateur des prix de l'énergie, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence.
C'est le début d'un mouvement de remontée qui avait été annoncé par les autorités il y a quelques mois. Donc concrètement, sur la facture, on a un peu moins de la moitié des consommateurs qui sont au tarif réglementé. Et donc eux seront directement impactés par cette hausse. Il n'y a jamais d'engagement dans l'énergie. Donc vous êtes toujours libre de résilier votre contrat à tout moment, sans frais et sans délai. C'est simple, c'est notamment plus simple que de changer de box internet. Alors oui, c'est difficile quand on est un consommateur de s'y retrouver parmi la jungle des offres. Mais c'est vrai que le plus simple, là où on est sûr de ne pas faire d'erreur, c'est de choisir une offre qui garantit un certain pourcentage de remise sur le prix du kilowattheure par rapport au tarif réglementé. Puisque là, on est sûr d'y gagner dans tous les cas. Donc si je vous dis par exemple, votre prix du kilowattheure sera 10% moins cher, eh bien vous êtes sûr que quelle que soit l'évolution des tarifs réglementés demain, vous serez toujours en dessous. Donc certes, ils peuvent augmenter si les tarifs réglementés augmentent, mais au moins vous êtes sûr de faire des économies et c'est ça le plus simple.
Des propos recueillis par Élise Dangean. Parmi les autres changements en vigueur ce 1er octobre, l'entrée en vigueur donc de l'indemnisation des proches aidants dès aujourd'hui ou encore l'ouverture à tous de la prime à la rénovation énergétique, MaPrimeRénov.
Il est 6h05 sur Europe 1. Yannick Jadot, au contact des Français, l'eurodéputé visitait hier une exploitation de betteraves bio dans le Pas-de-Calais.
Et alors que le sujet sera débattu lundi à l'Assemblée, l'écologiste a redit son opposition à l'utilisation des néonicotinoïdes. En réalité, Claudia Bertram, c'était surtout l'occasion pour le prétendant à la présidentielle de lancer sa campagne.
Il y a deux parcelles de betteraves, il y en a une ici et là-bas.
Yannick Jadot s'aventure dans le champ aux côtés de Stéphane Delmotte, agriculteur bio.
Sur une parcelle en bio comme celle-ci, on ne part pas sur le même niveau de rendement, mais en termes d'impact sur l'environnement, moi je considère que je m'y retrouve.
Objectif pour l'eurodéputé écologiste, montrer qu'il existe des alternatives aux néonicotinoïdes.
Il y a un modèle agricole qui ne dépend pas de ces pesticides tueurs d'abeilles. Et donc, il suffirait que l'argent public aille sur ces paysans-là plutôt que sur le modèle qui détruit les paysans, qui détruit l'environnement.
Yannick Jadot à la campagne. Et en campagne, il ne veut pas perdre de temps en vue de la présidentielle. Fragilisé en interne après le refus d'Europe Écologie Les Verts de désigner rapidement son candidat pour 2022, l'eurodéputé inaugure une série de déplacements à travers le pays.
Nous devons être en permanence au contact des Françaises et des Français, proposant des réponses écolo qui, à mon avis aujourd'hui, sont les seules réponses rationnelles et responsables.
Et tant pis si son parti n'est pas en phase avec son tempo. Yannick Jadot le martèle, c'est l'écologie qui recompose le paysage politique. Et c'est donc nous qui devons assumer le leadership.
Alors, reportage sur une exploitation de betteraves bio à Vimy, près d'Arras, signé Claudia Bertram.
La stupeur au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, en région parisienne, au lendemain d'une agression au couteau en pleine classe.
Un élève de 16 ans a été poignardé par l'un de ses camarades qui aurait voulu se venger après avoir subi du harcèlement. La victime est hors de danger, mais pour les profs et les parents, un cap de violence a été franchi. Éric Delion est le représentant des parents d'élèves de l'établissement.
On a la boule au ventre, évidemment. Quand on envoie notre enfant au lycée de la République, on estime que c'est un sanctuaire et qu'il ne peut pas se produire de fait de violence aussi grave. Et ma deuxième réaction, c'est la colère, parce qu'on est dans un contexte qui pourrait être un élément déclencheur de ce type de situation, puisqu'en fait, on a des élèves qui parfois sont laissés à l'abandon par manque de moyens. Il y a clairement un manque d'encadrement. Il manque des moyens et ça fait des années et des années que ce lycée est sujet à des violences. Jusqu'à présent, les violences, elles étaient plutôt pour des conflits extérieurs. Et là, c'est la première fois qu'on a une agression aussi violente au sein du lycée.
Des propos recueillis par Hélène Tarzian.
Europe 1.
Le journal de 6h se poursuit dans un instant et on regarde vers le futur. Bientôt des taxis volants dans le ciel parisien. Les premiers tests vont démarrer l'été prochain. A tout de suite sur Europe 1, 6h07.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h09, la suite du journal Sophie Echen.
Ce n'est pas encore demain que vous irez travailler dans une voiture volante comme dans le cinquième élément, mais on s'en rapproche à grands pas. Hier, une filière aérienne de mobilité urbaine a été officiellement lancée en région parisienne. Les premières expérimentations débuteront en juin 2021. Mais Aurélien Fleureau a pu jeter un œil au prototype de ces taxis volants à l'aérodrome de Pontoise.
Derrière nous, vous voyez le Volocity, qui est un véhicule électrique à décollage vertical. C'est un peu un mélange entre un hélicoptère et un drone.
Propulsé par ses 18 hélices et 9 petites batteries électriques, il volera à 110 km/h. Dans un premier temps, explique Fabien Nesman, porte-parole de Volocopter, il y aura un pilote et un passager avant l'étape suivante.
On va passer en mode automatisé dans des couloirs aériens dédiés aux taxis aériens. Là, il n'y aura plus de pilotes, il y aura deux passagers dans le véhicule.
Mais avant d'en arriver là, il faudra d'abord tester tout l'écosystème, explique Edward Arkwright, directeur général exécutif de Groupe ADP.
On va dépasser les photos, l'anticipation ou les films qu'on a tous vus. Et là, on va le tester en conditions réelles, avec une tour de contrôle, comment ça s'insère dans l'espace aérien, comment les riverains acceptent ces nouveaux objets, comment les procédures de sécurité sont respectées. Rendez-vous pour des premiers vols en juin prochain.
Autre partenaire du projet, la RATP, qui voit avec ses taxis volants une manière de se diversifier et d'innover. Et ce n'est pas de la science-fiction, rappelle sa présidente Catherine Guilloire.
Le but du jeu, c'est d'arriver à faire un démonstrateur pour les jeux. Moi, je pense que le moment où vous prendrez un ticket, si je peux dire, par Internet pour monter là-dedans, on est plutôt vers 2030. Mais c'est demain.
Selon Volocopter, un trajet de 15-20 minutes pour rallier le centre de Paris depuis l'aéroport de Roissy coûtera environ 70 euros.
Aurélien Floreau du service économie.
Bah, c'est pas beaucoup plus cher qu'un taxi normal.
Pas tellement.
À quand les bouchons dans le ciel de Paris?
On va voir ça.
Bienvenue dans le futur. C'était le journal de Sophie Echan. Il est 6h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Les sports avec vous, Jérôme Lacroix, et à la une, la table des grands.
L'hymne de la grande coupe d'Europe du foot, la Ligue des Champions. Vous l'entendez ici, diffusé le 12 août dernier. Alors, il est 3h du matin et la musique retentit très fort dans un quartier de Rennes, au grand étonnement des riverains. C'est le quartier du stade de foot, parce que cette nuit-là, les haut-parleurs de l'enceinte avaient diffusé la musique à fond, parce que le club breton venait de se qualifier pour la première fois pour la compétition. Ce soir, les Rennais vont connaître leurs trois adversaires du premier tour qui démarre le 20 octobre. Tirage au sort en Suisse à partir de 17h. Peut-être le Bayern Munich, le Real Madrid pour les Bretons. Même chose pour l'Olympique de Marseille, également engagé. 7 ans d'absence pour l'équipe du gardien Steve Mandanda.
J'attends avec impatience parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. On se doute bien qu'on va avoir un groupe très très solide avec des grosses équipes. Maintenant, c'est la Champions League, donc c'est comme ça.
Et le troisième représentant français, c'est le Paris Saint-Germain, finaliste sortant, protégé par un statut de tête de série, oui, mais qui peut aussi retrouver Barcelone ou encore l'Inter Milan.
Le PSG qui pourra bien compter sur Neymar ces prochaines semaines.
Pas suspendu par la commission de discipline de la Ligue, pas de sanction non plus pour le Marseillais Alvaro González. Après enquête, la commission n'a pas pu déterminer s'il y avait eu insultes racistes et homophobes lors du PSG-OM le 13 septembre dernier et a donc classé l'affaire sans sanction.
Le tennis à présent et l'histoire d'un jeune papa qui fait vaciller un colosse.
Pierre Hugerbert, papa depuis moins de deux semaines, a poussé jusqu'au cinquième set l'Allemand Zverev, septième joueur mondial. Les regrets de l'Alsacien tombaient donc au deuxième tour après quasiment 4 heures de combat.
Je suis défait aujourd'hui, vraiment défait d'être dans cette situation. Une fois de plus, c'est pas le premier match à Roland-Garros que je perds en étant serré, mais vraiment celui-là, j'avais l'impression aujourd'hui que les étoiles étaient toutes alignées pour que je m'en sorte et que je fasse un super match. Je jouais très bien, j'ai tout eu dans ma raquette. C'est dingue, ce sport est, franchement, me fait mal à la tête personnellement.
Eh, c'est dur pour Pierre Hugerbert. Autre éliminé hier, Benoît Paire.
Et Benjamin Bonzi reste donc seul en lice côté messieurs. Hugo Gaston, Toulousain, 20 ans, 239e mondial, la surprise. Demain, pour une place en huitième de finale, le gros morceau, Stan Wawrinka, vainqueur 2015. Hugo Gaston, dernier français, porte-drapeau, il n'en fait pas une montagne.
Je ne vais pas me mettre une pression supplémentaire. J'essaie de me concentrer sur ce que je peux faire. J'essaie de donner le maximum, prendre du plaisir et profiter. Je sais que ça va être un match compliqué. Mais c'est avant tout profiter et pas avoir de regrets à la fin du match.
Et côté dames, trois bleus en lice aujourd'hui, Ferro, Cornet, Burel. Elles tenteront de rejoindre au troisième tour. Caroline Garcia a qualifié hier soir du côté des prétendants au titre final. Tranquille victoire hier de Raphaël Nadal et Dominic Thiem.
Voilà, on suit Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. Le journal de Roland-Garros, votre rendez-vous avec Corinne Boulou tout à l'heure, juste après 8h30.
Et puis la première victoire fracassante cette nuit des Los Angeles Lakers contre le Miami Heat. Premier acte de la finale NBA. Billet de basket, 116-98, match 2 la nuit prochaine. La première équipe a 4 victoires et sacrée championne.
Le journal des sports complet tous les matins, juste après le journal de 6h avec Jérôme Lacroix. À demain Jérôme.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1.
Il est 6h15 sur Europe 1 et vous allez maintenant découvrir qui est l'invité inattendu du 5-7. On va continuer de faire vivre ce débat autour du bien-être animal avec quelqu'un mais que vous connaissez plutôt comme chanteur.
Bonjour, c'est Hugo Frey.
Bonjour Hugo Frey, bienvenue sur Europe 1, chanteur.
Avec plaisir, avec plaisir.
Et avec amoureux plaisir. Des animaux, donc qui occupent une grande place dans votre vie. Vous allez nous raconter dans quelques secondes sur Europe 1. A tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le chanteur Hugo Frey est avec nous ce matin, invité inattendu du 5-7 pour parler non pas de ses chansons, mais de son amour pour les animaux, votre amour pour les animaux. Hugo Frey, ils occupent une grande place autour de vous.
Oui, oui, les animaux, c'est très 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 important. Alors,
vous en avez chez vous, animaux de compagnie?
Bien sûr. Actuellement, moi, je vis à Marly-le-Roi, à côté de Versailles, et j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin, et j'ai deux chats. J'adore ces chats. Bon, ben, c'est le chat, c'est spécial. Mais ben, j'aimerais mieux, je crois que vous vouliez qu'on parle de cette loi, c'est ça qu'on
Alors, on en parlait tout à l'heure avec mon premier invité de ces élevages de poulets en batterie. Une proposition de loi, effectivement, est examinée aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est de favoriser l'élevage en plein air. Vous y êtes sensible à ces questions-là quand vous faites vos courses, votre alimentation, vous faites aussi vos choix en fonction de ça.
Attendez, je veux dire une chose. Quand en 1966, j'ai commencé à gagner un peu d'argent en chantant, j'avais déjà 35 ans, hein, et la première chose que j'ai faite, c'est pas d'acheter une Ferrari, j'ai acheté une ferme en Ardèche que j'ai restaurée complètement puisqu'elle était fermée, elle était en jachère depuis des années, et très rapidement, j'y ai planté de la lavande et j'ai aussi créé un troupeau de chèvres, de 50 chèvres. Et pourquoi 50? Je vais vous dire tout de suite. C'est parce que au-dessus de 50, je m'étais renseigné, au-dessus de 50, il faut 1 mètre carré par chèvre minimum. Donc après, on rentre dans des dimensions qui sont pas humaines. Si vous voulez, quand si vous avez un troupeau de 400 ou 500 chèvres, enfermées, elles se battent, alors on est obligé de leur couper leurs cornes, etc. Enfin, c'est des tas de choses. Non, moi je suis vraiment...
On tombe dans l'industrie,
toujours,
quoi.
Ah, depuis toujours, je suis pour le paysan à l'ancienne, quoi. Mais ce qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est de voir que les gens qui me méprisaient, parce que quand j'ai débuté, comme ça, on me traitait de boy scout de la chanson, et on me traitait de gay laboureur, parce que j'avais investi le peu d'argent que j'avais gagné, c'était dans un tracteur, et je travaillais la terre entre mes concerts. J'élevais mes chèvres, des chevaux, et j'avais des animaux, quoi. Mais en liberté, toujours en liberté, et en petit nombre. La plus grande pollution sur la terre, c'est pas tout ce qu'on raconte, les voitures, tout ça, mais les hommes. On est trop nombreux, c'est ça qui est...
Il faut bien nourrir tout le monde. Alors vous voyez les esprits qui changent, vous voyez ceux qui vous méprisaient à l'époque, aujourd'hui, ont peut-être changé de regard.
Voilà. Autrefois, les gens, ils disaient, si on n'est pas progressiste, on est conservateur. Et aujourd'hui, les progressistes, ben, ce sont les conservateurs, évidemment. On a découvert que le progrès, qui consiste à avoir 10 000 poulets enfermés dans une espèce de hangar gigantesque et monstrueux, c'est pas un progrès, c'est pas un progrès du tout. Aujourd'hui, le progressisme, c'est en quelque sorte retrouver les vraies valeurs de la vie et de la nature, quoi.
Vous avez gardé des animaux, là, aujourd'hui, dans votre ferme en Ardèche, vous les avez toujours ?
Oui, j'ai des chevaux, mais voilà. En ce moment, ne me faites pas parler de chevaux, parce que c'est atroce, vous voyez ce qui se passe en même temps. Oui. C'est peut-être pas le sujet de votre émission, mais permettez-moi de vous dire que les gens qui blessent, qui tuent et qui massacrent des chevaux, je pense que si on les attrape, il faudra les juger comme si ce qu'ils ont fait à des animaux, c'est comme s'ils l'ont fait avec des hommes, aux hommes. Il faudra qu'ils soient punis avec la même sévérité que ce qu'on peut faire aux hommes, parce qu'il n'y a aucune différence. L'homme qui est capable de martyriser un animal, c'est un type qui est capable de martyriser un homme, ça c'est sûr.
Et les animaux sauvages dans les cirques, que le gouvernement veut désormais faire disparaître progressivement, c'est une bonne chose, c'est la fin d'une ère quand même.
Vous savez, je crois que c'était Nietzsche qui disait « tout ce qui est exagéré est insignifiant ». Alors les lois, maintenant, évidemment, on passe d'un extrême à l'autre. Avant c'était tout, maintenant c'est rien. Parce que ces lois, elles sont faites dans la précipitation, alors qu'il faut faire les lois dans le calme et la réflexion. Alors tous ces gens, ils sont pas tellement nombreux, mais ils vont être ruinés, leur vie va basculer dans le vide complètement, ces cirques. Alors, je sais pas quoi vous dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces animaux dans les cirques, ils ont pas l'air malheureux. Ces dauphins qu'on voit dans les piscines et qui sautent en l'air, ils n'ont pas l'air malheureux. En tous les cas, je crois qu'ils sont moins malheureux que ceux qui sont pris dans les filets et qui finissent en chair à pâté pour les chats, quoi. Voyez.
Le débat continue sur ces questions. Hugo Frey, vous avez passé quand même le cap des 91 ans. Vous allez comment aujourd'hui dans ce contexte un peu compliqué avec le Covid, etc.
Moi, je vais très bien. Je viens de sortir un disque qui fonctionne à fond. Et écoutez-le, parce que ce disque, dans chaque chanson, il y a un petit message. Ça ne concerne pas que les hommes, ça concerne les hommes, les animaux. Tout ce qui est vivant est divin.
Autoportrait, c'est le titre de cet album qui est sorti cet été. Merci beaucoup, Hugo Frey, d'avoir joué le jeu
c'est
ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
De l'invité inattendu du 5-7. Très bonne journée à vous, à bientôt.
Et moi j'avais 10 ans.
Il est 6h23.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et l'actualité de ce jeudi matin, c'est les voyants au rouge. À Paris, la capitale pourrait basculer en zone d'alerte maximale face au Covid. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit s'exprimer en fin d'après-midi. En Isère, la mort de Victorine n'était pas accidentelle. L'autopsie du corps de la jeune fille de 18 ans conclut à la noyade avec intervention d'un tiers. Et puis en Seine-Saint-Denis, cette nuit, un gigantesque incendie a ravagé un entrepôt de 7000 mètres carrés. Près de 150 pompiers ont été mobilisés. Le sinistre n'a pas fait de victimes.
Europe 1.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le 5-7 continue avec vous dans votre exploitation en Haute-Loire, notre planète, dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
On écoute le monde changer et on regarde notre planète tous les matins avec Fanny Agostini à 6h25. Fanny, en cette période de crise sanitaire, la question du climat est-elle passée au second plan ? Est-ce qu'on peut se dire que nos chefs d'État ont un peu oublié la planète ?
Mais pas du tout, au contraire. Hier, en distanciel, a eu lieu une réunion inédite dans l'histoire des rencontres internationales. Plus de 100 chefs d'État se sont réunis en virtuel. Une chose qui est déjà louable, c'est que ce sommet est le plus sobre en émissions de CO2 de l'histoire, car les différents acteurs des négociations ne se sont pas déplacés en avion. En tout cas, il était hors de question de manquer le rendez-vous, ni même de le reporter. Il fallait éviter à tout prix un gros temps mort dans les négociations internationales, sur la protection de la biodiversité bien sûr, et de conserver ce dynamisme politique sur le sujet à l'heure où tous les grands événements internationaux sur le climat et la nature sont soit annulés, soit reportés à cause de la Covid.
Ouais, rendez-vous très important, donc, et avec des prises de position assez inédites, y compris de la part de la Chine.
Le président chinois a déclaré que son pays incarnera désormais la civilisation écologique, rien que ça. Et pour cela, les ambitions n'ont jamais été aussi grandes pour ce pays qui, dans le classement, reste passablement le premier plus grand pollueur au monde devant les États-Unis. Le président a annoncé la fin des énergies fossiles à brève échéance pour atteindre la neutralité carbone en 2060. Sur la protection de la biodiversité, il dit qu'elle sera au cœur de son plan quinquennal.
Comme dans le passé, on peut craindre que ce soit juste de belles paroles.
Alors oui, c'est vrai, ce sont des déclarations, certes, mais qui ont le mérite d'annoncer de nouvelles priorités pour relancer l'économie après une crise. Ce qui est remarquable, c'est qu'une grande puissance comme la Chine se positionne fortement sur la protection de la biodiversité à l'heure où d'autres pays se disent qu'au lendemain de la crise Covid, c'est plutôt l'urgence sociale qui prime. Pour la biodiversité, on verra plus tard. Une nouvelle impulsion, espérons-le, car actuellement, les États sont en train de façonner leur plan de relance post-Covid et c'est un moment clé pour redéfinir la place de la nature dans nos activités économiques.
Un moment clé, oui, pour imaginer l'avenir, que la fin de cette crise qui se dessine. Merci Fanny Agostini, à demain. Il est 6h28 sur Europe 1, en attendant le journal de 6h30, on va faire un point complet sur la météo avec vous, Laurent Cabrol, et vous surveillez toujours cette tempête qui arrive sur la France.
Je vous en parle depuis 5h, je vous parle de cette tempête Alex qui arrive et qui est déjà pas très loin de notre pays, mais enfin elle est sur le proche Atlantique. Je vois que Météo France vient de mettre en alerte maintenant les départements bretons. Je vais vous donner les départements qui semblent les plus exposés, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, dans une première mouture si je puis dire, ensuite Vendée, Côte d'Armor et Manche. Ce sont les départements qui sont exposés et qui seront exposés avec des vitesses de 130 km/h dans les terres, et de 160 sur les côtes. Alors, pourquoi est-elle méchante ? Je l'ai dit, mais je le rappelle, parce qu'elle vient tôt en saison, parce que les arbres ont encore des feuilles, donc des arbres peuvent être beaucoup plus facilement déracinés, et puis parce que c'est une tempête qui nous interroge avec des jet streams, c'est-à-dire des vents d'altitude qui sont très élevés, et il ne faudrait pas que ceux d'en haut se greffent à ceux d'en bas, parce que ça pourrait l'accélérer encore. Bon, on n'en est pas là, ne dramatisons pas, sachons simplement que ça va se passer la nuit prochaine, et que c'est ce moment vraiment très 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 important. Alors pour aujourd'hui, ce sont deux zones de pluie qui traversent la France. Elles sont actuellement présentes, elles vont traverser tout le pays, épargnant un peu le bassin méditerranéen, avec des températures de 16 à 20 degrés.
A tout à l'heure, Laurent Cabrol, on vous retrouvera juste avant 7h.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, bon réveil avec Europe 1, jeudi 1er octobre. Toute l'information de cette matinée avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal, il est 6h30.
Il y a un certain soulagement de se dire qu'on va finalement savoir ce qui s'est passé. Maintenant, il y a encore beaucoup d'interrogations. On a une famille triste, en colère, détruite.
Victorine, 18 ans, est bien morte par noyade, mais ce n'était pas un accident. Le point sur l'enquête avec l'envoyé spécial d'Europe 1 en Isère. L'énervement des magistrats face à Éric Dupond-Moretti. Deux syndicats ont été reçus hier à l'Élysée. Et puis, en ce moment, moins de monde dans les transports en commun, plus de voitures, plus de pollution et une économie locale entravée par les bouchons.
Ils sont 11 millions en France, 11 millions d'invisibles qui prennent le temps de s'occuper d'un proche malade, âgé ou handicapé. 11 millions d'aidants qui vont pouvoir bénéficier à partir d'aujourd'hui d'une avancée. Un congé de 3 mois désormais indemnisé. Ce matin, le témoignage très fort de l'un d'entre eux. Vous le connaissez à la télévision pour Danse avec les stars où il est juré. Le reste du temps, Jean-Marc Généreux s'occupe de sa fille très lourdement handicapée. Il nous raconte son quotidien dans 10 minutes sur Europe 1. Et puis ce sera votre revue de presse internationale et l'innovation du jour d'Anissé Mbida. Bienvenue, bon réveil, 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est désormais une certitude. Victorine, dont on a retrouvé le corps dans un ruisseau lundi et qui avait disparu depuis l'avant-veille, n'est pas morte par accident. Il s'agit d'une noyade, mais avec l'intervention d'une tierce personne. Les tout derniers éléments avec Jean-Luc Boujon à Villefontaine en Isère.
Selon l'autopsie, l'intervention d'un tiers ne fait aucun doute dans le décès de Victorine. Sur le corps de la jeune femme, en effet, on a retrouvé de multiples ecchymoses. En revanche, il n'y aurait a priori pas eu d'agression sexuelle. En tout cas, les examens d'hier n'ont pas permis de mettre en évidence quoi que ce soit. Des résultats qui ont toutefois ébranlé les parents de la jeune femme, explique leur avocate, maître Kelly Montero.
Il y a un certain soulagement de se dire qu'effectivement, c'est pas arrivé par hasard, qu'on va finalement savoir ce qui s'est passé. Maintenant, il y a encore beaucoup d'interrogations. On a une famille triste, en colère, détruite, mais qui se soutient et puis surtout qui tient à remercier tout le travail qui est accompli pour essayer de faire ressortir cette vérité.
Les enquêteurs continuent donc d'examiner minutieusement les échanges téléphoniques ou sur les réseaux sociaux de la jeune femme afin de savoir si elle pouvait connaître son ou ses agresseurs. La famille, elle, est persuadée que Victorine a fait une mauvaise rencontre sur ce chemin abrité des regards, explique cet ami des parents.
C'est une mauvaise rencontre. Hein. C'est pas une fille qui avait de la mauvaise fréquentation. Non, non, c'est une fille qui sortait jamais en plus. Elle l'a encore dit à la maman. C'était vraiment une fille réservée, pas frivole, vous voyez.
L'enquête se poursuit donc en attendant la marche blanche en hommage à Victorine qui sera organisée dimanche. Villefontaine, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Un spectaculaire incendie cette nuit au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Un entrepôt de 7000 m² contenant de nombreuses palettes de bois s'est effondré à cause des flammes. L'origine du sinistre n'est pas encore connue.
La colère gronde et se répand dans tous les tribunaux de France. Rien ne va plus entre les magistrats et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
Et ce, malgré la hausse de 8% du budget de la justice pour l'an prochain. Le courant ne passe pas. Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Les preuves concrètes de ce rejet sans précédent pour un garde des Sceaux sont sur la table au plus haut niveau de l'État.
Oui, exactement. Les deux syndicats de magistrats qui ont été reçus hier matin par la conseillère justice de l'Élysée ont compris qu'il fallait montrer l'ampleur de la mobilisation et toute la journée, ils se sont attelés à faire remonter les actions menées dans les tribunaux partout en France. Résultat, en fin d'après-midi, ils sont retournés poser sur la table plus de 80 motions votées en Assemblée générale extraordinaire dans les différents tribunaux et cours d'appel du territoire. 80, c'est plus d'un palais de justice sur 3 et ce n'est pas fini puisque d'autres assemblées générales sont annoncées pour la semaine prochaine. Tous ces mécontents ont voté des motions calquées sur le même modèle pour exprimer leur défiance vis-à-vis d'un garde des Sceaux à qui ils reprochent de les mépriser et surtout de vouloir déstabiliser l'indépendance de la justice. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'enquête administrative lancée par Éric Dupond-Moretti contre 3 magistrats du parquet national financier dans une affaire où lui-même était concerné. Bref, jugé parti, c'est impossible, estiment les frondeurs, et signe que la crise est profonde et prise au sérieux au plus haut niveau de l'État. Plusieurs hauts magistrats ont l'oreille attentive du Premier ministre.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Nouvelle conférence de presse d'Olivier Véran ce soir à 18h. Un point sur l'épidémie de coronavirus et les restrictions en vigueur. Les maires de Paris, Lille, Lyon, Grenoble et Toulouse seront reçus d'ici là par le Premier ministre. Une fréquentation d'à peine 65% dans les transports en commun d'Île-de-France par rapport à la normale. C'est Europe 1 qui vous révélait ces chiffres il y a 2 semaines. Les usagers ont visiblement pris leur voiture. La preuve, on voit jusqu'à 520 km de bouchons cumulés le matin contre 350 habituellement.
Aurélien Fleurot, ce genre de scénario inquiète pour la vie économique de toute la région.
Une rame de RER en moins, cela ferait 1300 voitures sur les routes en plus. L'image est spectaculaire, elle n'est que virtuelle, mais elle laisse imaginer ce que donnerait un abandon massif des métros ou des trains de banlieue. En ce moment, il y a chaque jour environ 3 millions de déplacements en transport en commun qui ne se font plus. Et sur certains tronçons, si seulement 10% des passagers se reportaient vers la voiture, les conséquences seraient immédiates, selon l'étude menée par Kizio, dont David O'Neill est directeur des activités.
Ça amènerait une augmentation des temps de trajet en voiture de l'ordre de 50%, ce qui aurait un coût assez considérable pour l'économie parce que ça ferait perdre du temps à tous les gens qui utilisent la route pour des motifs professionnels, les gens qui font de la logistique, les artisans, tous ceux qui ont besoin de la route. Et rien que sur le corridor Argenteuil-Paris, on a estimé que par an, ça coûterait 390 millions d'euros à l'économie francilienne.
Pour éviter cette congestion, Kizio rappelle que 45% des emplois sont télétravaillables en région parisienne et qu'au-delà de l'aspect sanitaire, pour redonner confiance à ceux qui veulent à tout prix éviter d'être entassés dans une rame bondée, le lissage des heures d'arrivée au travail est une mesure à renforcer en lien avec les entreprises pour faire baisser l'affluence de la pointe du matin dans les transports.
Il est 6h35 sur Europe 1. L'actualité des sports et le tirage au sort ce soir de la Ligue des champions de football. Le PSG, l'OM et Rennes vont connaître leurs adversaires.
Tandis qu'en Ligue 1, on a eu hier soir l'épilogue de l'affaire Neymar-Alvaro. Accusation de racisme d'un côté et insulte homophobe de l'autre. La commission discipline a tranché. Cyril de la Morinerie, elle ne peut infliger de sanctions.
Pendant 15 jours, la Ligue a instruit un dossier, interrogé Neymar et Alvaro González, décortiqué les images de cette fameuse 36e minute où les deux joueurs se seraient insultés et même consulté un spécialiste en lecture labiale pour arriver à ce constat. Aucun élément tangible ne permet de conclure à un comportement raciste ou discriminatoire. La commission de discipline a donc décidé de ne prendre aucune sanction, explique son président Sébastien Deneux.
Il n'y avait pas dans le dossier sur l'échange Alvaro-Neymar d'éléments qui permettent à la commission de dépasser les propos des uns par rapport à ceux des autres et la parole de l'un par rapport à celle de l'autre et qu'aucun élément objectif ne permet à la commission de se fonder, là encore, pour rentrer en voie de sanction disciplinaire.
Neymar et Alvaro González s'en sortent bien. Les deux joueurs risquaient jusqu'à 10 matchs de suspension, ce qui les aurait privés de terrain jusqu'à la mi-décembre. L'attaquant parisien qui souffre d'une contracture à la cuisse pourra donc, s'il est remis, jouer dès vendredi face à Angers. En revanche, ses ennuis avec le fisc espagnol ne sont pas terminés. L'ancien joueur de Barcelone est sur une liste noire pour une dette dépassant 34 millions d'euros.
Cyril de la Morinerie.
Et on va y revenir sur le cas de Neymar précisément depuis Barcelone dans notre revue de presse internationale tout à l'heure avec notre correspondant sur place, Henri de Laguérie. C'était le journal de 6h30, signé François Geffrier.
Europe 1.
Il est 6h37 et j'accueille l'invité du 5-7 ce matin. Bonjour Jean-Marc Généreux.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, merci, bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous, nos auditeurs vous connaissent hein, comme danseur, comme chorégraphe et surtout pour vos interventions animées dans l'émission Danse avec les stars. Mais vous témoignez ce matin sur un tout autre sujet, les aidants qui s'occupent d'un proche âgé, malade, dépendant, des aidants mieux reconnus désormais, même indemnisés en France. Vous vous occupez de votre fille qui souffre de handicap, vous allez nous raconter dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Le danseur et chorégraphe et même animateur télé Jean-Marc Généreux est l'invité du 5-7 ce matin. Jean-Marc Généreux, je le disais, vous témoignez ce matin comme aidant, comme 11 millions de Français. Vous dédiez toute une partie de votre vie à la prise en charge, en l'occurrence de votre fille Francesca qui a 21 ans. De quoi souffre-t-elle ?
Ma fille souffre du syndrome de Rett. C'est une maladie génétique assez orpheline qui touche principalement et potentiellement uniquement les jeunes petites filles. Et comme vous l'avez bien dit, elle a 21 ans, elle est avec nous. On n'a aucune intention qu'elle aille ailleurs. On veut la garder avec nous toute notre vie, en tout cas tant qu'on aura les capacités.
Donc c'est un choix que vous avez fait de vous en occuper vous-même plutôt que de la placer dans une structure spécialisée?
Oui, c'est une petite fille qui ne peut pas parler. De 0 à, on va dire, 18 à 19 mois, elle avait une évolution normale. Après le 20e mois environ, elle a eu une grosse régression qui a duré peut-être une petite année. Elle disait 10 mots et le dernier mot qu'elle a dit, c'est « papa ». Elle marchait, elle ne marchait plus. Elle parlait, elle ne parle plus. Donc, la mettre dans les mains des gens, c'est difficile pour nous d'imaginer qu'elle aille la même attention que nous, on peut lui donner avec la même émotion. Soit dit en passant, j'ai un respect énorme pour les gens qui donnent leur vie à des étrangers, mais nous, on voulait pas surcharger le système. Et donc, je pense que, personnellement, et j'ai pas d'opinion pour les autres familles, mais je pense que c'était notre priorité à nous et notre position à nous de prendre soin de notre fille. Mmh.
Alors, c'est un handicap qui est très lourd. Ça demande une présence extrêmement importante, une attention extrême au quotidien, j'imagine.
Ah, absolument. Ma petite fille, elle a les capacités d'un enfant de 8 mois. Quand on dit son nom, elle tourne sa tête, mais c'est à peu près le seul geste qu'elle peut faire. Sinon, c'est les couches, l'épilepsie, l'hyperventilation, l'apnée, légère scoliose. Et donc, il faut absolument la faire marcher. On la tient, on essaie de la stimuler, de lui donner des micro-petits buts dans la journée. On s'occupe d'elle, donc c'est 3 repas par jour, c'est le bain tous les jours, l'hygiène qui est constante.
Ça veut dire qu'être aidant, oui, c'est réorganiser toute sa vie autour de ça.
Absolument, mais là, je vous parle et je trouve ça presque pas bien parce que c'est ma femme qui fait tellement pour ma fille. Moi, je fais la grande vadrouille entre un studio de radio avec un studio de télé et puis je m'en vais faire du cinéma et tous ces trucs-là. Mais je pourrais jamais faire ça si ma femme ne fait pas ce qu'elle fait. C'est sûr que quand je suis à la maison, là, on a vécu le confinement, on a été 4 mois et demi ensemble. C'est des moments merveilleux que j'ai vécu avec ma fille. Mais quand moi, on me voit à la télé, ça veut dire que ma femme est au combat encore plus.
11 millions de Français, hein. C'est un foyer sur 6 en France qui est concerné par ce type de situation qui s'applique évidemment aussi aux personnes âgées, aux personnes fragiles, aux personnes dépendantes. Ces aidants, ils sont désormais mieux reconnus en France parce qu'ils vont être indemnisés à partir d'aujourd'hui, 1er octobre, avec la possibilité de prendre un congé de 3 mois, qui est même renouvelable pendant 1 an pour s'occuper d'un proche. C'est une avancée qui est majeure, selon vous. Vous auriez pris, vous, un congé justement pour avoir plus de temps ?
Premièrement, oui, c'est une grande avancée et je suis tellement fier que les gouvernements se penchent sur cette question, la question du handicap ou des personnes âgées ou les personnes en mobilité réduite ou en perte d'autonomie. C'est énorme parce que les gens pensent que ça va sans dire que ah oui, il va s'occuper de sa maman ou il va s'occuper de son enfant, mais c'est pas toujours comme ça. On n'a pas toujours les capacités physiques ou économiques de pouvoir le faire. Et là, ce que le gouvernement a fait ici, c'est merveilleux et je pense que ça devrait servir aussi d'exemple pour plusieurs autres pays qui n'ont pas emboîté le pas. Au Canada, on a la chance d'avoir des personnes indépendantes qui viennent nous aider, mais les aidants naturels ne sont pas encore rémunérés. On a des subsides pour des répits qui sont, on va dire, très modestes, mais ils sont là, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail. Ces enfants, ces parents, ces gens-là font partie de notre société. On ne peut pas regarder à côté. Il faut regarder ces gens-là dans les yeux et les aider.
Et ça représente beaucoup de sacrifices pour une famille de faire ce choix aussi de s'en occuper, de les maintenir à domicile.
Ben moi, ça m'y fait ma carrière avec ma femme. On était en spectacle, on aurait probablement dansé toute notre vie. Mais ma femme, elle a mis une croix sur ses performances de danse et...
C'est un choix difficile. Et on entend...
Oui, moi, j'avais la partenaire idéale. Je suis un pianiste sans piano. Je peux faire le beau si je veux, mais j'ai fait de la danse parce que j'aimais cette femme.
Et bien voilà, vous avez l'opportunité d'en parler, de vous faire le porte-voix de ces aidants qui partout en France et ailleurs donnent leur temps pour encadrer, pour prendre en charge leurs proches. Merci pour ce témoignage, Jean-Marc Généreux. Alors je précise que professionnellement vous avez quitté Danse avec les Stars et que vous présentez une nouvelle émission sur France 2 qui sera diffusée à la fin de la semaine, samedi soir. Vous serez d'ailleurs vendredi l'invité de Philippe Vandel. Bonne journée à vous, à bientôt.
Merci beaucoup et merci de mettre la lumière sur ces enfants et ces parents qui ont besoin d'être remis dans la lumière et être évalués comme des personnes à part entière. Merci beaucoup.
Europe 1.
Il est 7h moins le quart sur Europe 1. Dans un instant, l'innovation du jour avec Anissa Mbida.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h48 sur Europe 1. 13 morts en lien possible avec le Covid dans un EHPAD d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques où un cluster avait été découvert il y a 3 semaines. Ce soir, 18h, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'exprime à nouveau. D'ici là, les maires de 5 grandes villes, Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse, se sont entretenus avec le Premier ministre Jean Castex. Et puis en Isère, Victorine, 18 ans, est morte par noyade avec l'intervention d'un tiers. L'autopsie écarte toute l'hypothèse d'un accident. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien.
Le 5-7 continue dans un instant avec votre innovation du jour.
Oui, c'est une poubelle congélateur pour que rien ne coule et qu'il n'y ait plus aucune odeur.
Il va nous raconter dans un instant, à tout de suite.
Oui, c'est vraiment le genre d'idée, on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Par exemple, la grande tendance du moment, c'est de faire du compost avec les épluchures, ouais, les trognons, les restes de nourriture, etc. Alors je ne sais pas si vous en faites chez vous, mais vous mieux être bien équipé, avoir un jardin notamment, ouais, sinon ça pourrit, ça sent mauvais,
c'est pas évident.
Ça attire les mouches, c'est horrible. Mais la même chose se passe aussi avec les couches pour bébé ou un plat avarié qu'on aurait oublié au frigo. Mieux vaut vider la poubelle tout de suite, sinon ça risque d'empester et les microbes vont proliférer. Eh bien, l'avantage de cette poubelle, c'est qu'elle va tout congeler au fur et à mesure à moins 17 degrés. Donc rien ne va couler, aucun germe ne pourra se développer. Évidemment, il n'y aura plus aucune odeur.
Bon, ça veut dire qu'on transforme sa poubelle en frigo. Ça veut dire aussi qu'il faut la brancher. C'est pas très écolo tout ça.
Non, pas vraiment. Hein. C'est le petit bémol de cette technologie. Alors je leur ai posé la question et apparemment ça consommerait quand même 2 fois moins qu'un frigo. Et quant au liquide réfrigérant, il ne serait pas du tout nocif pour l'environnement. C'est la start-up Petal Clean qui a mis cette poubelle congélateur au point. Elle ressemble vraiment à une poubelle classique. Hein. Il y a une pédale à l'avant, elle s'ouvre par le haut, il y a un grand seau à l'intérieur. Et justement, l'intérêt du congélateur, hein, d'utiliser de la congélation, c'est que le sac n'est plus nécessaire. Rien ne coule, donc on peut vider le contenu directement dans son sac à compost ou dans une benne de tri sélectif. C'est un peu dommage pour la consommation électrique. Hein. Sinon, j'aurais bien vu cette technologie dans toutes les poubelles. Moi qui suis assez sensible aux petites mauvaises odeurs.
Ouais, surtout l'été, quand il commence à faire chaud et où ça sent très vite très mauvais avec les épluchures de fruits et légumes. Voilà, bon, la poubelle congélée. Pas très écolo, mais pratique, on sait pas. L'innovation du jour avec Anis Mbida. À demain, merci. 7h10, nous ouvrons à présent notre revue de presse internationale. L'actualité telle qu'elle est vécue ailleurs et nous allons en Belgique d'abord. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une à Bruxelles ?
Eh bien la Belgique a enfin un gouvernement de plein exercice. Il aura fallu 493 jours à compter le quotidien flamand de Standaard pour que 7 partis politiques belges réussissent à former une coalition. Le nouveau Premier ministre sera le libéral flamand Alexander De Croo. Ce devrait être un jour de fête, écrit Le Soir, mais cette fête est aussi joyeuse qu'une célébration de mariage en plein Covid. Le journal explique que le nouveau gouvernement n'a pas de majorité en Flandre. Aux élections de 2019, les nationalistes et l'extrême droite avaient en effet remporté les suffrages des Flamands. Hier, raconte la Libre Belgique, un dirigeant nationaliste a appelé la population à mettre un drapeau flamand aux fenêtres en signe de protestation. La Belgique survit encore une fois, lui répond le Standard qui conclut. Ce n'est pas cette fois encore que le ciel nous tombera sur la tête.
Isabelle Horry à Bruxelles. Deuxième étape ce matin en Espagne. Bonjour Henri Laguérie.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui intéresse les journaux à Barcelone ?
Eh bien, c'est un footballeur que vous connaissez bien, Neymar, la star brésilienne, fait encore parler de lui hors des terrains puisqu'il doit 34,6 millions d'euros au fisc espagnol. Et dans El País, on apprend qu'il occupe la première place de la liste noire des mauvais payeurs en Espagne. Dans ce document officiel rendu public chaque année depuis 6 ans pour lutter contre la fraude fiscale, figurent les noms de tous les particuliers qui doivent plus d'un million d'euros au trésor public. Celui qui a joué à Barcelone jusqu'en 2017 écrase la concurrence, ironise le journal sportif Marca, le deuxième plus mauvais payeur, un homme d'affaires espagnol est loin derrière avec une dette de 16 millions d'euros. Enfin pour Mundo Deportivo, ses ennuis avec le fisc compliquent un hypothétique retour de Neymar dans un club espagnol.
Ouais, ça fait pas très, c'est pas du plus bel effet. En tout cas, Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Nous allons terminer ce tour du monde en Argentine ce matin. Bonjour Rodvillier Moriamé.
Bonjour Sébastien.
De quoi parle-t-on chez vous à Buenos Aires ?
Eh bien, l'Argentine pleure la mort de Quino. C'était le papa de Mafalda, petite fille curieuse aux épais cheveux noirs, personnage de BD iconique dans le pays et à travers le monde. Le quotidien La Nation salue le génie du dessinateur, mort à 88 ans, et rappelle que c'était l'un des auteurs argentins les plus traduits au monde aux côtés de Borges et de Cortázar. Quino était le meilleur d'entre nous, écrit Los Andes, journal de la région de Mendoza, dont le dessinateur était originaire et où il est mort hier. C'est beaucoup plus qu'un esprit brillant que l'on a perdu. C'était un homme bien, cohérent, un dessinateur exceptionnel. professionnel et un humoriste sans limites créatives, poursuit le journal. Le quotidien Paris Adossé rappelle, lui, à quel point la BD Mafalda reste d'actualité aujourd'hui en recensant 15 phrases emblématiques de la petite fille comme « Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas ? » Est-ce que dans ce monde, il n'y aurait pas toujours plus de gens et moins de personnes ?
Et bravo pour l'accent. Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe en Argentine, ça rappelle quelques souvenirs d'enfance. Mafalda, Buenos Aires, Barcelone, Bruxelles ce matin, votre fenêtre sur le monde tous les matins. C'est votre revue de presse internationale avec le réseau des correspondants d'Europe 1 à travers le monde.
Europe 1.
Il est 6h53 sur Europe 1. Bon réveil, la météo de Laurent Cabrol avec cette tempête Alex qui arrive, le journal de 7h d'Hélène Zellani avec l'inquiétude des restaurateurs face au Covid et Mathieu Béliard qui démarre le 7-9. A tout de suite sur Europe 1.